Lettre de Frère Joseph Branham du 31 mai 2026. Les aigles se rassemblent. Cher petit troupeau de l'épouse parole vierge de Christ, comme nos cœurs se sont réjouis quand nous avons entendu son ange puissant proclamer que nous sommes la semence prédestinée de Dieu, qui ne peut faire rien d'autre que suivre sa voie. Ça compte plus que la vie pour nous. Vous pouvez nous ôter la vie, mais vous ne pouvez nous ôter sa voie. Nous sommes un avec sa parole. Nous sommes un avec sa voix, nous sommes un avec lui. Ça nous semble tellement étrange d'être si mal compris et ridiculisé parce que nous disons que nous croyons au fait de passer les bandes, que c'est la voix de Dieu qui parle à son épouse. Satan a tellement trompé les gens qu'il pense que le fait pour nous de proclamer que nous sommes une église qui écoute les bandes, c'est quelque chose qui est en dehors de la parole, quelque chose de mal, que nous sommes mal conduits, alors que pendant tout ce temps, c'est le moyen parfait pourvu par Dieu pour son épouse. Comment pourrait-il en être autrement? Si vous interprétez mal une parole qui a été prononcée, vous êtes perdu. Ils peuvent avoir le bon motif et le bon objectif, mais être dans l'erreur. Quelqu'un peut être loin du Saint-Esprit et être néanmoins dans l'erreur. Si Dieu n'avait pas pourvu d'un moyen pour que son épouse puisse entendre elle-même chaque parole, alors il y aurait eu un autre moyen. Mais il a pourvu d'un moyen pour que chaque être humain sur la terre ait l'occasion d'entendre la parole lui parler directement, sans qu'il soit nécessaire d'avoir une interprétation, une explication ou une clarification. Tout est ainsi, dit le Seigneur. Point final. Nous sommes tous d'accord que nous devons nous en tenir à la parole pour être son épouse. Frère Branham dit, je cite, « Je crois que tout ce dont nous avons besoin est écrit ici même. » Il suffit que ce soit interprété par le Saint-Esprit. Je ne crois pas qu'il y ait un seul homme sur terre qui ait le droit d'ajouter son interprétation personnelle à la parole. Dieu n'a pas besoin que qui que ce soit interprète sa parole. Il est son propre interprète. Il a dit qu'il le ferait et il le fait. Fin de citation. Clairement, le Seigneur a parlé et a révélé à son épouse qu'il n'y a aucun autre moyen d'être son épouse choisie que de s'en tenir à sa parole. Dieu lui-même interprète sa propre parole et personne n'a le droit d'y ajouter son interprétation. La parole dit aussi que son prophète est l'interprète de sa parole. Il est la voix de Dieu pour les gens. Ce qu'il dit est la parole pour notre jour. En écoutant la voix de Dieu sur les bandes, nous sommes la prophétie qui s'accomplit. Il n'y a rien de plus puissant, de plus sacré, rien de plus satisfaisant, rien de plus parfait que d'écouter la voix confirmée de Dieu vous parler. Alors que d'autres pourraient dire que ça ne sert à rien, les aigles s'assemblent et sont saisis d'une très grande joie avec l'assurance qu'ils sont fidèles à la parole de Dieu. Il nous a dit que si vous avez un magnétophone, réunissez un groupe de personnes, passez cette bande et écoutez attentivement. Par sa grâce et sa miséricorde, c'est exactement ce que nous faisons. Dieu nous a appelés à sortir de cet âge mauvais pour que nous portions son nom. Nous passons par tellement de tests et d'épreuves comme jamais auparavant. Satan est sur le pied de guerre car il sait que son heure est proche. Vous pourriez vous demander, comment puis-je passer par toutes ces choses alors que je suis son épouse? Vous êtes manifesté, éprouvé, et vous prouvez à Satan que nous sommes son épouse. Nous sommes la parole dans la chair. Nous pouvons prononcer la parole et elle s'accomplira. C'est ainsi dit le Seigneur. Nous avons la voix de Dieu qui parle directement à Satan et qui lui dit, Frère Branham dit, je cite, « Satan, tu es vaincu, tu es un menteur, et en tant que serviteur de Dieu, et en tant que serviteur, nous t'ordonnons au nom de Jésus-Christ d'obéir à la parole de Dieu et de sortir des gens, car il est écrit, « En mon nom, ils chasseront les démons. » Fin de citation. Quel que soit notre besoin, nous n'avons qu'à demander, à croire et à ne pas bouger de là. Ça pourrait se manifester instantanément, ce pourrait être dans une semaine, dans un mois, dans un an. Ce que nous voyons ou ressentons, ce n'est pas important. C'est déjà arrivé à l'instant. Chaque réunion où nous nous rassemblons devient de plus en plus grande pour les aigles de Dieu. Nous sommes rassemblés dans une même pensée, d'un même accord, assis ensemble dans les lieux célestes, à écouter la voix nous parler et nous mener à la perfection par sa parole. Nous aimerions beaucoup que vous vous joigniez à nous ce dimanche à midi, heure de Jeffersonville, alors que nous écouterons la voix de Dieu nous parler à nouveau et nous apporter l'interprétation de sa propre parole. Frère Joseph Branham. Message du Dieu des sept âges mauvais du 1er août 1965, le matin.
Frère Orman Neville dit « Ce compte-rendu fait suite à la réunion commune du Conseil des diacres et du Conseil des administrateurs qui s'est tenue vendredi soir au tabernacle. Nous lisons ces résolutions qui intéresseront tout homme et toute femme qui ont donné leur adhésion à ce ministère et qui aimeraient connaître l'avis du Conseil, du pasteur et du pasteur adjoint. Je fais lecture de ces résolutions ce matin. Que chacun prenne ceci très au sérieux et y prête la plus grande attention. Ces résolutions ont été prises et adoptées par le Conseil des administrateurs et des diacres en accord total avec le pasteur et le pasteur adjoint. Toutes les bandes magnétiques des sermons du révérend William Branham seront produites uniquement par Fred Southman, et ce, jusqu'à nouvel ordre du Conseil. Nous ne reconnaissons en ce moment aucun ministère de bandes gratuites. Ces bandes sont données par concession et ne peuvent être reproduites par aucune autre personne que Fred Southman, sans son autorisation écrite. Point 2. Aucune personne tenant des réunions, vendant des brochures ou des bandes magnétiques, écrivant des tracts, distribuant des linges de prière, ou des cartes de quelque nature que ce soit, ou sollicitant des dons, n'est reconnu par cette Église ou son pasteur. Ces personnes le font sous des prétextes fallacieux et n'ont reçu aucune autorisation de le faire. 3. Cette Église n'envoie aucun ministre autre que son pasteur, le révérend William Branham, tenir des réunions à d'autres endroits. Les raisons pour lesquelles ces résolutions ont été prises sont les suivantes. Il a été porté à notre connaissance que des ministres traversent le pays, s'introduisant dans d'autres assemblées en disant qu'ils sont affiliés à cette Église et envoyés par elle pour tenir des réunions. Il a été aussi porté à notre connaissance que des gens impriment des cartes et des tracts, envoient des linges de prière, etc., comme s'ils étaient autorisés à le faire par cette Église et son pasteur, ce qui n'est pas vrai. Nous vous saurions gré de bien vouloir signaler à l'Église l'identité de toute personne agissant de la sorte. Ces résolutions ont été lues et approuvées par le pasteur, le révérend William Branham, par le pasteur adjoint, le révérend Orman Neville, ainsi que par le conseil des administrateurs et des diacres. Que le Seigneur vous bénisse. Tout est possible, crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible. Crois. Inclinons la tête. Cher Père Céleste, nous sommes reconnaissants ce matin de pouvoir croire. Cela a été rendu possible par le sang de ton Fils, Jésus, qui a été répandu afin de nous permettre d'avoir part à sa grâce et de devenir des fils et des filles de Dieu grâce à son obéissance jusqu'à la mort sur la croix, d'être justifié en croyant en lui et en sa résurrection. Et maintenant, le Saint-Esprit a été répandu dans nos cœurs. Nous sommes reconnaissants de cette occasion de venir ici ce matin afin de partager nos pensées et notre adoration en nous exprimant par des chants, des témoignages, la lecture des psaumes, la lecture de ta parole, et en attendant solennellement que le Saint-Esprit nous transmette le message prévu pour cette heure-ci. Accorde-le, Seigneur. Puissions-nous mettre à profit notre présence ici aujourd'hui. Et lorsque nous quitterons ce bâtiment, puissions-nous dire, comme ceux qui revenaient d'Emmaüs, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait ce matin? Accorde ces choses, Dieu éternel, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bonjour, mes amis. À vous qui êtes présents ici au tabernacle, de même qu'à nos amis qui sont d'un bout à l'autre du pays, de tout là-bas sur la côte ouest, de nouveau ce matin, et jusqu'à la côte est, ainsi que dans le nord et dans le sud, reliés à nous par le téléphone. C'est une belle journée ici dans l'Indiana, légèrement nuageuse, fraîche, très agréable. Le tabernacle est comble, jusque dans les cours et le long des murs. Nous sommes dans l'expectative de voir le Seigneur nous visiter aujourd'hui. Et nous espérons que Dieu vous a donné une journée agréable, où que vous soyez. Et c'est une bonne journée, car c'est le Seigneur qui l'a donnée. Peu importe le temps qu'il fait, c'est une bonne journée. Nous sommes heureux d'être ici, heureux d'avoir encore l'occasion d'exprimer au monde notre foi en Jésus-Christ. Et nous voulons saisir toutes les occasions que nous pouvons pour rendre témoignage de son amour et de ce qu'il a fait pour nous. Aujourd'hui, il y a quelques instants, on m'a remis une annonce à faire. Et ensuite, j'ai des choses ici que j'aimerais dire. L'une d'elles, l'annonce qui m'a été remise, concerne une réunion du conseil qui s'est tenue l'autre soir. Un diacre de l'église a élu domicile en Arizona. Il s'agit de frère Collins, notre distingué frère. Et pendant son absence, il le conseille à nommer frère Charlie Cox pour prendre sa place pendant qu'il est au loin. Frère Charlie Cox a été officiellement nommé par le conseil des administrateurs ou des diacres de cette église pour exercer les fonctions de frère Collins en son absence. Et une chose que je tiens à dire de nouveau, je veux vous remercier tous, c'est que certains d'entre vous vont peut-être retourner chez eux avant le service de guérison de ce soir, pour les jolis petits cadeaux, témoignages de votre affection. On nous a apporté beaucoup de nourriture depuis que nous sommes ici. Ma femme et moi et ma famille, nous l'apprécions vraiment. Parfois, j'oublie même d'en parler. On est tellement occupé, vous savez. Ma pensée est tout le temps dans un tel tourbillon. Vous pouvez imaginer ce que c'est. Tous ces gens, non seulement de cette église-ci, mais de partout dans le monde, voyez. Alors, on est comme pris dans un tourbillon continuel. Quelqu'un parlait de consécration des bébés et de service de baptême et ainsi de suite. C'est formidable. J'aimerais bien pouvoir faire ça, mais c'est bien compliqué. Je n'ai pratiquement pas le temps. Je dois garder ma pensée fixée sur ceci, sur ce message. Vous savez, la Bible a dit aux apôtres, ou plutôt les apôtres dans la Bible ont dit, « Allez, choisissez parmi vous des hommes de qui l'on rende un bon témoignage, honnête et rempli du Saint-Esprit, pour qu'ils s'occupent de ces choses. » Et j'ai dit à Billy, il a dit, « Papa, tu vas faire la consécration du bébé cette fois ?» J'ai dit, « Oh là là, voyez ?» Si, il y en a beaucoup qui attendent d'être consacrés, c'est vrai. Alors, il va falloir que je revienne et que je réserve une journée spécialement pour la consécration des bébés. Donc, j'aimerais faire ça. Bon, mais nous voulons vous remercier chacun de tout cœur, ma femme, moi, notre famille. Les gens nous apportent des conserves, des haricots blancs frais, des pastèques, des cantaloupes, oh, des fraises. Ils nous apportent tout ce qu'on peut imaginer. L'autre jour, un précieux frère et sa sœur nous ont apporté une énorme dinde. Je m'en régale encore. Et alors, oh, et j'ai l'impression que je vais devoir la finir avant de partir. Sinon, elle va l'emporter avec nous. Et donc nous apprécions vraiment ces choses. Je connais beaucoup de ces personnes. Il y en a quelques-unes que je ne connais pas. Ces choses sont sur le perron quand nous arrivons. Et donc, j'apprécie vraiment. Beaucoup de ces personnes, je les connais. J'en ai vu beaucoup, et il y en a encore beaucoup que je n'arrive pas à voir. Je suis sûr que tout le monde comprend que j'aimerais voir chacun si je le pouvais. Mais je ne peux pas être partout à la fois. Voyez, je n'arrive pas à voir tout le monde. Je fais tout mon possible pour le faire. Alors, que Dieu soit avec vous. Je suis sûr qu'il y en a un qui sera avec vous, c'est Jésus-Christ, et lui, il le peut. Il est la seule personne omniprésente, et il est aussi omnipotent. Il peut donc pourvoir à tous les besoins. Et en plus, il est omniscient, il connaît vos besoins, ce dont vous avez besoin. Je recommande tous ceux que j'ai fait aussi vite que possible pour en voir, même ce matin, depuis que je suis ici, et je verrai tous ceux que je peux. Et si... ceux que je ne pourrai pas voir, alors le Dieu omnipotent pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire. Je n'arrive pas bien à lire ça. Voudrais-tu le lire? C'est un genre d'annonce spéciale. Je pense que c'est Billy Paul qui doit l'avoir écrite. Alors, il est comme moi. Je n'arrive même pas à me relire. Donc moi, j'ai ma propre sténo. Si vous voyez certains de mes textes ici, écrits là-dessus, pensez-vous que vous pourriez comprendre ça? J'ai comme une étoile qui traverse un pont et ainsi de suite, c'est complètement... Que frère Adair de l'Arkansas, à immédiatement voir le révérend Perry Green à l'arrière de l'église. Très bien. Bon, donc, une autre chose que j'aimerais annoncer ici, ce sont les services de guérison de ce soir. Nous allons prier pour les malades ce soir. Alors, j'espère que vous serez là. Nous adressons nos salutations à tous les gens, partout dans le pays, au nom du Seigneur Jésus, afin que Dieu vous bénisse ce matin. Chez certains d'entre vous, il est presque midi. À New York, il est environ midi. Et en Arizona, sur la côte ouest, il n'est qu'environ 7 heures. Il y a donc, et ici, nous sommes juste au milieu. Donc, que Dieu vous bénisse alors que vous écouterez. Maintenant, il se peut que ceci, j'avais à cœur, pendant ma présence ici, ils nous avaient refusé les salles. Puis, ils ont fini par nous donner une autorisation. Nous pouvions faire un service, mais nous ne devions pas prier pour les malades. C'est mon ministère, ça. Je dois faire ce que le Saint-Esprit me dit de faire. Alors, j'ai refusé, parce que je veux être libre pour pouvoir faire tout ce que le Saint-Esprit me dicte. Voyez? Alors, je me suis dit que, de toute manière, nous pourrions supporter de passer un jour de plus au tabernacle. Il fait frais ce matin. Le Seigneur a vraiment préparé une belle journée pour nous ici, donc nous en sommes reconnaissants. En fait, là, je suis venu ici dans le but d'enseigner les dernières coupes, les sept dernières coupes, les sept dernières trompettes et les sept derniers tonnerres du livre de l'Apocalypse, de faire le lien entre ces choses en cette heure où nous vivons maintenant pour faire suite à l'ouverture des sept sceaux, des sept âges de l'Église. Donc, nous n'avons pas trouvé d'endroit approprié pour le faire. Alors, j'espère que dès que je le pourrai, nous pourrons trouver un endroit assez grand pour ça. Soit ici, soit à Louisville, à New Albany, ou bien nous dresserons une tente pour que nous puissions vraiment rester aussi longtemps que le Seigneur nous conduira à le faire. Par contre, maintenant, j'ai profité de cette occasion pour exprimer aux gens ma croyance et ma foi en Dieu, et puis pour vous amener à voir l'heure où nous vivons. Et ceci n'est pas dirigé contre quelqu'un en particulier, contre des credos ou quoi que ce soit. C'est tout simplement ma manière de voir la parole de Dieu. Dimanche dernier, nous avons eu une très belle effusion de l'Esprit sur la parole. Ça a été très long, et je n'aurais pas voulu que ce soit si long. Cependant, nous ne savons pas quand nous allons nous réunir pour la dernière fois. Et nous devons, comme nous voulons être, ou plutôt, je veux être comme Paul l'a dit autrefois, je vous annonçais tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Jésus a dit qu'il n'avait rien caché à ses disciples. Et comme je m'applique tellement à essayer de rester sous l'onction du Saint-Esprit pour découvrir quelle est l'heure, le message de l'heure, parfois je n'arrive pas à sortir, à m'acquitter de mes fonctions comme serviteur de Christ, comme ministre. Par contre, il y a plusieurs hommes qui essayent de m'assister, et je suis reconnaissant de les avoir, tous mes frères dans le ministère. Or, je ne fais pas exprès de retenir les gens. Si vous, qui êtes là-bas, dans le pays où le message se rend, si vous pouviez être ici et promener les regards sur cette église ce matin, dans les allées, les nurseries, à l'extérieur, là où les radios sont allumées, dans les autocars, les caravanes et tout, les automobiles, vous verriez quel est le problème. Et puis, à chaque réunion, beaucoup, beaucoup de gens passent en voiture, ils téléphonent et tout. Ils n'ont pas pu entrer ni venir assez près. Alors, nous avons besoin de plus de place pour permettre aux gens d'être assis, installés confortablement. Et puis, pour pouvoir apporter un message que je considère d'une importance vraiment capitale. Il me semble que nous devrions tous être installés confortablement, assis, pour que nous puissions écouter, avec nos crayons et du papier, nos notes, la Bible et tout, pour prendre des notes. Mais les choses étant ce qu'elles sont, j'ai pensé revenir parler du temps où nous vivons. Essayez de présenter certaines choses auxquelles vous aurez à faire face. Et vous en aurez besoin. Si je venais ici, aujourd'hui, ou tout autre jour, moi ou tout autre ministre, pour essayer d'apporter un message à un peuple mourant comme nous, alors que le temps est tellement proche, et c'est ce que je crois quant à ce jour-ci, je serais un hypocrite si j'essayais d'apporter quelque chose en sachant que cela vous ferait plaisir, mais qui serait contraire à la parole de Dieu, ou quelque chose pour attirer une foule, ou quelque chose comme ça. Je ne serais pas ce que je... Je dois être ici un ministre de Christ. Je veux apporter quelque chose qui, d'après moi, vous sera d'une utilité vitale, pas simplement pour être vu, mais avec l'idée que ce sera quelque chose qui fera que, si je meurs aujourd'hui, demain sera ancré dans votre cœur le désir de continuer à servir Dieu. Maintenant, je veux dire que quelque chose est sur le point d'arriver. Je le sais. Beaucoup d'entre vous ici se souviennent qu'un frère Junior Jackson est venu vers moi un peu avant mon départ pour l'Arizona, avec un songe qu'il avait eu. Quelque chose d'étrange, combien s'en souviennent? Et le Seigneur nous en a donné l'interprétation, et cela s'est accompli à la lettre. Maintenant, il vient d'avoir un autre songe à propos de quelque chose. Ce qui est étrange, c'est que l'autre jour, un homme qui venait de l'Oregon était ici. Il me connaît à peine et il a eu le même songe que Junior Jackson et il est venu me le raconter. Je n'en connais pas l'interprétation. Je m'attends au Seigneur, mais je sais que ce sera quelque chose qui vient de Dieu. Souvenez-vous-en, c'est ainsi dit le Seigneur. C'est quelque chose qui va émaner de Dieu. Je ne sais pas ce que c'est. C'est vraiment frappant, très frappant. Franchement, d'après les songes que ces deux hommes, l'un d'eux, il est peut-être baptiste ou presbytérien. Il est peut-être assis ici ce matin, je ne sais pas. Il était ici l'autre jour. Je ne connais pas cet homme. Mais quand il m'a raconté ce songe, il avait les larmes aux yeux. Cela l'a bouleversé. Il a fait tout le trajet depuis l'Oregon pour venir en parler. Frère Jackson est également venu ce matin. Ces deux hommes ne se connaissent pas. Ils habitent à des milliers de kilomètres l'un de l'autre, et les deux songes se rapportent exactement à la même chose. Donc, le Saint-Esprit m'en cache l'interprétation. Je ne sais pas quoi dire à cet homme, mais je sais que Dieu est sur le point de faire quelque chose, et ce sera glorieux à nos yeux. Maintenant, le message de ce matin, je veux lire dans l'Épître aux Galates. Je ne vais pas prêcher ou simplement, il s'agit d'une leçon d'école du dimanche. Maintenant, vous, les hommes et les femmes qui sont debout le long des murs, si quelqu'un veut vous céder sa place et vous laisser vous asseoir pendant quelques instants ou quelque chose comme ça, eh bien, vous ne me dérangerez pas. Seulement faites-le respectueusement. Et s'il y a des mamans dont les petits se mettent à pleurer ou quelque chose, quelqu'un pourra leur sortir de la nurserie pour qu'elles aient de la place pour leurs petits. Maintenant, prenez votre crayon, votre Bible, préparez-vous à noter quelques-uns des passages de l'Écriture que nous allons lire. Je ne veux pas que vous vous sentiez contraint. Je veux que vous vous sentiez libre d'être là et d'étudier. Et vous ne serez peut-être pas d'accord. Ce n'est pas grave. Mais ce matin, si je fais entendre ceci d'un bout à l'autre du pays, c'est afin que les gens qui ont cru le message que le Seigneur Jésus m'a donné pour cette heure sachent ce qui est en train de se passer en situant cela dans l'Écriture. Dimanche dernier, nous avons parlé sur les oints du dernier jour. Et si vous, s'il y en a parmi vous qui ont l'habitude d'écouter les bandes, ne manquez pas de vous procurer cette bande. Ce n'est pas que nous voulions vendre des bandes, ce n'est pas ça le but. Le but, c'est de répandre le message. Voyez, si vous avez un magnétophone, réunissez un groupe de personnes, passez cette bande et écoutez attentivement les oints. Vous entendez des gens se lever et dire, « Oh, la Bible dit que dans les derniers jours, il s'élèverait de faux prophètes et qu'ils opéreraient ces signes. » C'est exactement ce que dit l'Écriture. Alors, à quoi est-ce que ça s'applique? Il faut l'appliquer correctement. Ce soir, si le Seigneur le veut, je veux parler de Dieu révélé dans sa propre parole, pour montrer qu'on ne peut pas appliquer à l'œil ce qui doit s'appliquer à l'oreille. Voyez, c'est comme lorsqu'on imprime la Bible entière. La Bible entière dépeint Jésus-Christ. Donc, c'est de ça que je voudrais parler ce soir, si le Seigneur le veut, ou sinon, à une date ultérieure. Maintenant, dans l'Épître aux Galates, et dans l'Épître de 2 Corinthiens 4, 1 à 6, et puis Galates 1, 1 à 4, j'aimerais lire quelques versets. Maintenant, dans Galates 1, 1 à 4, Paul, apôtre, remarquez qu'il s'arrête tout de suite. Apôtre signifie un envoyé ou un missionnaire. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais Jésus-Christ et Dieu le Père, qu'il a ressuscité des morts, et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de Dieu notre Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Maintenant, dans l'épître de 2 Corinthiens, au chapitre 4, et nous allons lire les versets 1 à 6. C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Si ça ne met pas en évidence la prédestination, je ne sais pas ce qui le fera. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'Évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. C'est comme dans le jardin d'Éden, il les chassa pour les empêcher de toucher à cet arbre. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Nous nous disons vos serviteurs à cause de Christ. Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs et fait resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Amen. Voilà ce que dit la parole. Maintenant, mon sujet de ce matin, c'est le Dieu de cet âge mauvais. Comme nous l'avons lu dans les Écritures, le Dieu de ce monde, de cet âge mauvais. Or, ce message signale les mauvaises actions de cet âge mauvais, lequel correspond bien à la prophétie qui s'applique à cet âge mauvais. Et je crois fermement que la Bible a toutes les réponses pour chaque âge, déjà écrites dans la Bible pour le croyant de cet âge-là. Je crois que tout ce dont nous avons besoin est écrit ici même. Il suffit que ce soit interprété par le Saint-Esprit. Je ne crois pas qu'il y ait un seul homme sur terre qui ait le droit d'ajouter son interprétation personnelle à la parole. Dieu n'a pas besoin que qui que ce soit interprète sa parole. Il est son propre interprète. Il a dit qu'il le ferait et il le fait. Comme je l'ai souvent dit, il a dit « Une vierge concevra ». Il a proclamé cela par les lèvres d'un prophète, et elle l'a fait. Personne n'a besoin d'interpréter cela. Au commencement, il a dit « Que la lumière soit », et elle fut. Personne n'a besoin d'interpréter cela. Il a dit que dans les derniers jours, il répandrait son esprit sur toute chair, et il l'a fait. Cela n'a pas besoin qu'on l'interprète. Il a dit que dans les derniers jours, ces choses que nous voyons maintenant arriver seraient là. Cela n'a pas besoin d'être interprété, c'est déjà interprété, voyez. Maintenant, soyez très attentifs, alors que nous étudions maintenant la parole, le Dieu de cet âge mauvais où nous vivons maintenant. Ça peut paraître étrange, quelque chose de très étrange, en cet âge de la grâce, où Dieu est en train de choisir un peuple à cause de son nom, c'est-à-dire son épouse, en cet âge mauvais qu'on devrait appeler l'âge du mal. L'âge même où Dieu appelle un peuple à cause de son nom, par grâce, à sortir, et que ce soit appelé un âge mauvais. Maintenant, nous allons prouver par la Bible que c'est de cet âge-ci qu'il parlait. C'est très étrange de penser ça, que dans un âge mauvais comme celui-ci, c'est là que Dieu allait appeler son épouse. L'avez-vous remarqué? Il a dit « un peuple ». pas une église. Pourquoi? Pourtant, c'est appelé l'église, mais il allait appeler un peuple. Or, une église, c'est un rassemblement de beaucoup de personnes qui ont des caractères de toutes sortes. Mais Dieu en appelle un ici. Il n'a pas dit « J'appellerai les méthodistes, les baptistes, les pentecôtistes ». Il a dit qu'il appellerait un peuple. Pourquoi? Son nom. Vous voyez, un peuple, un qui vient des méthodistes, un des baptistes, un des luthériens, un des catholiques, voyez? Mais il appelle non pas un groupe rattaché à une église, mais un peuple pour qu'il porte son nom, qui reçoit son nom, qui est fiancé en son nom, qui s'en va à des noces pour être marié à lui, pour devenir une partie de lui, vous voyez, par prédestination. C'est pareil pour un homme qui choisit la bonne épouse dans la vie. Celle-là était destinée à être une partie de son corps. Et ainsi, l'épouse de Christ sera et est maintenant depuis longtemps destinée par Dieu à être une partie de ce corps. Voyez? Oh, les Écritures sont tellement riches, pleines de miel. Remarquez, ce n'est pas ce que quelqu'un a dit, ni ce que quelqu'un a appelé, mais ce que Dieu a choisi avant la fondation du monde. Et ce sont ces gens-là qu'il appelle dans les derniers jours, non pas une organisation, mais un peuple, pour qu'il porte son nom. Et c'est en cet âge mauvais qu'il est en train de le faire, précisément en cet âge de tromperie. La semaine dernière, dans Matthieu 24, c'était l'âge le plus trompeur de tous les âges. De tous les âges de tromperie, depuis le jardin d'Éden jusqu'à maintenant, il n'y a jamais eu un âge aussi trompeur que cet âge-ci. Il s'élèvera de faux prophètes, et ils opéreront des signes et des prodiges, afin, s'il était possible, de séduire même les élus. Voyez? Or, simplement des églises froides, formalistes, empesées et tout le reste, basées sur une théologie faite de main d'homme, ça, les élus n'y prêteraient jamais attention. Mais là, c'est presque comme la chose véritable. Laissez juste un mot de côté, c'est tout ce que vous avez à faire. Promis pour cet âge, un temps très important. Chrétiens, partout, prenez garde à l'heure où nous vivons. Notez, lisez et écoutez attentivement. Pourquoi est-ce de cet âge mauvais que Dieu appellerait un peuple à sortir pour qu'il porte son nom? La raison, c'est pour l'éprouver, éprouver son épouse. C'est pour, quand elle sera manifestée, après avoir été éprouvée, mise à l'épreuve, pour prouver à Satan. Ce qui est arrivé au commencement arrivera de même à la fin. C'est comme une semence qui commence dans la terre. Elle monte en passant par des éléments porteurs, la vie qui est en elle. Mais à la fin, elle redevient la même semence que lorsqu'elle est allée en terre. Et de la même manière que la semence de tromperie est tombée en terre en Éden, c'est de cette même manière qu'elle finit dans les derniers jours. Tout comme l'Évangile, quand il est tombé à Nicée, Rome, qu'il est devenu une dénomination, de même, à la fin, il se retrouve dans une super organisation. Tout comme la semence de l'Église qui est tombée à l'époque, alors qu'ils avaient les signes, les prodiges, le Christ vivant au milieu d'eux, elle finit dans les derniers jours sous le ministère de Malachie 4. Et la foi originelle qui avait été donnée jadis est rétablie de nouveau. Alors, nous voyons que cet âge mauvais est là pour prouver à Satan qu'elle n'est pas comme Ève, qu'elle n'est pas ce genre de femme-là. Et elle sera éprouvée par sa parole. L'épouse le sera, comme l'épouse d'Adam avait été éprouvée par la parole. Et l'épouse d'Adam croyait toute la parole, d'un bout à l'autre, sauf qu'elle était perplexe devant une seule promesse, qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Aujourd'hui, vous voyez? sauf qu'elle a échoué devant une seule promesse lorsqu'elle s'est trouvée face à face avec l'ennemi qui la tentait. Et maintenant, le peuple qui a été appelé pour porter son nom, bien sûr, c'est son épouse. Elle doit de nouveau entrer en contact grâce à la même chose. Pas seulement une vérité dénominationnelle ou quelque chose comme ça, mais chaque parole. En effet, au commencement de la Bible, la parole de Dieu a été donnée à l'homme pour qu'il en vive. Une seule parole a été mal interprétée par un homme appelé Satan dans la personne d'un animal appelé le serpent. Satan, dans cette personne, a pu parler à Ève et lui a présenté une fausse interprétation de la parole, ce qui a causé sa perte. Vous voyez, il faut que ce soit chaque parole. Au milieu de la Bible, Jésus est venu et il a dit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole, au moment où lui a été tenté par Satan. » Maintenant, Dieu nous dit ici, dans les derniers jours, que le Dieu de ce monde s'élèvera dans les derniers jours. Et quiconque y ajoutera une seule parole, ou en retranchera une seule parole, sa part sera retranchée du livre de vie. Que Dieu soit miséricordieux envers nous, et ne marchons pas comme des prétentieux, le torse bombé, la tête haute, des gens qui croient tout savoir, car à une certaine époque, nous aussi, nous étions dans la désobéissance. Avec de la grâce, de la miséricorde et des sentiments dans notre cœur pour Dieu, approchons-nous humblement du trône de la grâce. Il est étrange que maintenant, après quelques 1900 ans de prédication de l'Évangile, que maintenant lui, c'est-à-dire le système de ce monde, soit encore pire qu'au jour où il était ici. Le système de ce monde est pire. Le monde se dirige vers un grand point culminant. Vous le savez, le Seigneur est en train d'accomplir sa parole de tous côtés. Hier, nous étions. J'espère que ce jeune homme, il ne le fera pas. J'étais venu avec ma femme et Madame Woods, frère Roy Robertson, qui est ici quelque part. Frère Woods, nous nous étions arrêtés ici, au petit centre commercial Youngstown, pour y prendre un colis qui appartenait à Sir Woods. Et sûr, pendant que nous étions là, un jeune homme s'est approché et il s'est présenté. Il m'était inconnu. Un autre jeune homme s'est approché et m'a dit qu'il venait soit de l'Alabama ou de la Géorgie, je crois, parce que je leur ai demandé s'il connaissait notre frère Welch Evans. Nous avons parlé quelques minutes. Au moment où j'allais repartir, ce jeune homme m'a regardé. L'autre jeune homme et son petit garçon s'éloignaient. Et ce jeune homme m'a regardé. Il a dit, « Je voudrais vous dire une chose. » J'ai dit, « Êtes-vous un croyant? Êtes-vous un chrétien ?» Il a dit, « Non, monsieur. » Il a dit, « J'ai... » Il se peut que je ne cite pas exactement ce qu'il a dit là, mais il avait peut-être été un peu sceptique. Je lui avais demandé différentes choses concernant l'apparition de l'ange du Seigneur. Il avait répondu qu'il en avait entendu parler, mais qu'il n'avait encore jamais été à l'église, à cette église. J'ai dit, « Est-ce que vous y croyez ?» Il a dit, « Oui, monsieur. » Il a dit, « J'ai surveillé quelque chose. » Il a dit, « Des gens m'ont parlé de ces prédictions et d'autres choses, et j'ai entendu sur une bande que vous aviez prédit que la Californie allait se fissurer et sombrer comme ça. » Et il a dit, « Quand j'ai vu ça dans le journal, alors j'y ai cru. » Il a dit, « Je vais venir aujourd'hui, ou demain, c'est donc aujourd'hui, pour la première fois. » J'ai dit, « Que le Seigneur vous bénisse, mon garçon, et j'allais lui serrer la main. » Il a dit, « Mais je voudrais vous dire quelque chose, monsieur. » Il a dit, « Je suis perdu, complètement perdu. » Il a dit, « Je suis comme une pièce de monnaie dans un tas de sable. Perdu. » J'ai dit, « Mais vous n'avez pas à rester comme ça. Il y a quelqu'un ici, présent en ce moment, qui peut vous trouver à la minute même où vous serez prêt à vous laisser trouver. » Il a dit, « Je suis prêt. » J'ai dit, « Voudriez-vous incliner la tête ?» Il a dit, « Je n'ai pas honte. » Non seulement ça, mais il s'est agenouillé là, dans ce parc de stationnement, devant tout le monde. Les gens dans la rue l'observaient, et là, nous avons prié avec lui, jusqu'à ce qu'il donne son cœur à Dieu. Il s'est avancé pécheur, Il est reparti enfant de Dieu. Au moment où il s'est approché de la voiture, il était mort. Il est reparti vivant. J'ai dit, le baptistère sera ouvert demain. Il y a une source remplie du sang des veines d'Emmanuel. Tout pécheur plongé dans ce flot est lavé de tout péché. J'ai dit, levez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ, en invoquant le nom du Seigneur. Dieu vous remplira du Saint-Esprit, et il vous donnera ces grandes choses. Il fera en sorte que vous voyez. Qu'est-ce? Le monde se dirige vers un point culminant. Pourquoi? L'esprit d'anarchisme, la déchéance morale, la religion scientifique l'ont mené dans le repaire de tous les oiseaux odieux et impurs, comme le dit la Bible. Lisons-le, Apocalypse 18. Comme nous abordons ce point, prenons donc Apocalypse 18, 1 à 5. Je pense avoir noté la bonne référence. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange, qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, « Vous qui avez eu ces songes, là, disant, elle tombe, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de ses fornications, à elle, l'Église. Que les rois de la terre se sont livrés avec elle à des fornications, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, que vous n'ayez point de part à ses fléaux, car son péché s'est accumulé jusqu'au ciel, et Dieu se souvient de son iniquité. » Quel avertissement! Ça ramène l'Église exactement à Apocalypse 3, 14. À l'âge de Laodicée, l'anarchisme, très religieux, mais c'est l'anarchisme. Toi, parce que tu dis que nous sommes riches, nous n'avons besoin de rien, ne sais-tu pas que tu es nu, misérable, aveugle, et tu ne le sais pas? Ça cadre parfaitement avec l'écriture de cet âge-ci. Ça ne s'applique pas à l'écriture de l'âge de Daniel. Ça ne s'applique pas à celle au nom de l'âge de Noé. Mais en cet âge mauvais, le dernier. Remarquez ceci. Tu es nu. Que cela pénètre très profondément. Je sais que beaucoup ne seront peut-être pas d'accord sur ce que je vais exprimer ici. Mais au point où sont les choses, c'est à peine si un chrétien peut sortir de chez lui sans être confronté à cet âge mauvais, à cause des femmes insuffisamment vêtues. Femmes, je vais dire ceci, et je veux que vous écoutiez. Hommes et femmes, vous ne serez peut-être pas d'accord, mais je me sens conduit à le dire. Saviez-vous qu'une femme qui se déshabille comme ça n'a pas toute sa raison? Savez-vous qu'elle est, qu'elle le croit ou non, qu'elle le pense ou non? Elle est une prostituée? Bien que cette femme puisse se tenir devant Dieu, la main levée, et jurer qu'aucun autre homme que son mari ne l'a touchée, et c'est peut-être la pure vérité, mais elle est quand même une prostituée. Jésus a dit, « Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle. » Et il se peut que cette femme soit, vous voyez, elle est nue, dit la Bible, et elle ne le sait pas. L'esprit qui l'oint pour faire de telles choses est un esprit mauvais de prostitution. Il se peut que dans son être extérieur, son corps physique, sa chair, elle soit pure. Il se peut qu'elle ne commette aucun adultère, qu'elle puisse jurer devant Dieu et que ce soit la vérité, qu'elle ne l'a jamais fait. Mais son esprit est un esprit de prostitution. Elle a été tellement aveuglée par le dieu de ce monde de mode qu'elle a enfilé des vêtements sexy et qu'elle est sortie de chez elle. L'autre jour, frère Woods et moi, nous mettions notre bateau à l'eau dans la rivière. J'ai dû m'absenter de la maison pendant quelques minutes pour remonter la rivière. Et tout le long, il y avait des femmes qui portaient ces espèces de petits, ce qu'ils appellent des kinis ou quelque chose comme ça. C'est une honte. Une femme ne peut pas avoir toute sa raison et mettre quelque chose comme ça. Elle est possédée d'un esprit de prostitution. Maintenant, madame, il faut régler ça avec Dieu, parce qu'un jour, vous découvrirez que c'est la vérité. Comment pouvez-vous, vous, une dame, sachant combien votre corps est sacré, et vous l'exhibez devant ces démons remplis de convoitises et de péchés qui circulent dans les rues aujourd'hui? Si les fils de Dieu étaient encore tous des fils de Dieu, si votre mari était un fils de Dieu, ou bien il vous ferait mettre des vêtements, ou bien il vous quitterait. Si un garçon était un fils de Dieu, il n'épouserait jamais une chose pareille. Voyez, vous dites, vous faites, non, je vous dis la vérité, et un jour, vous y serez confrontés. Nu, adultère, elle ne le sait pas. Oh, je jure que je n'ai jamais transgressé les vœux que j'ai faits à mon mari. Votre mari vous jugera pour ça, si vous l'avez fait. Mais Dieu, lui, vous jugera d'après le genre d'esprit qui est en vous. Il ne vous jugera pas d'après votre corps, mais d'après votre esprit, cet homme intérieur. L'homme extérieur est un être physique qui est contrôlé par 6 sens, ou plutôt par 5 sens. L'homme intérieur est un homme esprit qui est contrôlé par 5 sens, la conscience, l'amour et ainsi de suite. L'homme extérieur, la vue, le goût, le toucher, l'odorat, l'ouïe. Mais l'intérieur de cet esprit, c'est l'âme. Et elle est contrôlée par une seule chose, votre libre arbitre. Vous pouvez accepter ce que le diable dit ou bien accepter ce que Dieu dit. C'est ce qui indiquera quel esprit se trouve à l'intérieur. Si c'est l'Esprit de Dieu, il se nourrira des choses de Dieu, et il ne se nourrira d'aucune des choses du monde. Jésus a dit, si vous aimez le monde ou les choses du monde, c'est que l'amour de Dieu n'est même pas entré dans cette partie intérieure. Satan vous a séduit. Et l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Maintenant, remarquez, nous voyons qu'elle est nue, dépravée et dévêtue. Et le monde semble être dans l'âge le plus mauvais qui ait jamais eu. Les femmes n'ont jamais agi comme ça, dans aucun âge, jamais, sauf juste avant la destruction du monde antédiluvien. Et Jésus y a fait référence. Nous allons y venir dans quelques instants. Est-ce que Dieu a perdu le contrôle? Ou bien, s'il permet simplement à un autre intermédiaire de prendre le contrôle? Je me pose la question. La vraie réponse à cette question, à mon avis, c'est qu'il y a 2 esprits opposés qui sont à l'œuvre dans le monde aujourd'hui. Or, il ne peut pas y en avoir plus que 2 chefs. L'un d'eux, c'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. L'autre, c'est l'esprit du diable. Et en ces derniers jours, il use de tromperie. Or, voilà précisément ce que je vais utiliser comme base de réflexion pour la suite du sujet, la suite de notre message. Les 2 esprits, l'un d'eux, le Saint-Esprit de Dieu, l'autre, l'esprit du diable qui use de tromperie. Les gens de la terre sont maintenant en train de faire leur choix. Le Saint-Esprit est ici, en train d'appeler une épouse pour Christ. Il le fait en lui confirmant sa parole promise pour cet âge-ci, démontrant qu'il s'agit bien de Christ. Si le doigt est censé bouger dans cet âge-ci, le doigt bougera. Si le pied est censé bouger dans cet âge-ci, le pied bougera. Si l'œil doit voir dans cet âge-ci, l'œil verra. Voyez ? l'Esprit de Dieu qui a grandi jusqu'à atteindre la pleine stature de Dieu dans l'âge où nous vivons maintenant. L'Esprit Saint est ici en train de confirmer le message de l'heure. Et l'Esprit Saint le fait pour que les gens qui croient Dieu soient appelés à sortir de ce chaos. L'esprit malsain du diable est ici, en train d'appeler son Église par l'erreur, comme toujours, par une perversion de la parole de Dieu, comme il l'avait fait au commencement. Voyez-vous comme on revient tout droit à ce temps de la semence, celle de l'Éden, la revoici. Or, dans les époques passées, on faisait part, dans les autres âges, on faisait partie de dénominations. On faisait partie de ceci, cela ou autre chose. Qu'est-il arrivé à la tige dénominationnelle? Elle sèche, l'esprit se retire, constamment. Il continue à avancer, et il a son aboutissement dans une semence. Vous voyez? Et la tentation, toutes les deux, aboutissent à la même chose qu'au commencement. Remarquez, non, maintenant, n'oubliez pas ça. Comme Jean, 1 Jean 4, 5 et 6, si vous voulez le noter, il appelle ça l'esprit de l'erreur. Ève n'est pas sortie tout simplement comme ça, volontairement, en disant « Je ne crois pas en Dieu ». Non, c'est qu'elle a cru une erreur. Satan ne s'est pas du tout présenté là en disant « Oh, eh bien, ce n'est même pas la parole de Dieu, ça ». Il a admis que c'était la parole de Dieu, mais il y a ajouté son interprétation personnelle. Et ça, Dieu leur avait dit clairement de ne pas le faire. Qu'est-ce que cela a pour conséquence? Cela amène une puissance d'égarement pour que les gens croient au mensonge et qu'ils soient condamnés à cause de ça. Maintenant, si vous voulez le lire, 2 Thessaloniciens 2:11. Comme j'ai environ un bon nombre de passages de l'Écriture ici et que nous ne pourrons pas les lire tous, alors je vais vous en présenter un de temps en temps. Comme ça pourrait paraître étrange que vous pourriez vous poser des questions ou quelque chose, alors on va peut-être les noter et les lire pour votre bien. Amener une puissance d'égarement, comme l'a annoncé la Bible. 2 Thessaloniciens, cet homme de péché, il allait paraître et s'asseoir dans le temple de Dieu, se faisant passer lui-même pour Dieu, et il amènerait les gens à s'abandonner à une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Et, pour y avoir cru, ils seraient condamnés. Il a fait la même chose à Ève. Il lui a donné, il ne lui a jamais dit que la parole n'était pas vraie, mais il l'a livrée à une puissance d'égarement pour qu'elle croie au mensonge. L'esprit d'égarement, c'est du diable, des démons qui agissent maintenant dans les enfants de la désobéissance. Ils désobéissent à quoi? À quoi les enfants d'aujourd'hui désobéissent-ils? Comme Ève, au commencement, à la vraie parole de Dieu. C'est vrai. Maintenant, si vous voulez le lire, prenons-le, Éphésiens 2, un instant, parce qu'il me semble bon que nous... Je vais m'arrêter un instant si vous n'êtes pas trop pressé. Et je vais en lire une partie. Éphésiens 2, 1 à 2. Et vous, autrefois, lorsque vous étiez morts dans vos fautes et dans votre péché, dans lesquels vous avez marché autrefois selon le train de ce monde, selon le chef de l'autorité de l'air, de l'esprit qui opère maintenant dans les fils de la désobéissance, les enfants de la désobéissance. Et si l'Antichrist en était à ses débuts, là, dans l'enfance de la désobéissance, qu'est-ce que ce sera à son aboutissement dans la personne de l'Antichrist? Combien ce sera trompeur? Combien plus forte que celle d'un petit enfant est la tromperie qu'un adulte peut présenter au monde? Et il a dit, l'esprit de d'égarement qui agit maintenant dans les enfants de la désobéissance, qui désobéissent à la parole. Remarquez, maintenant je voudrais m'arrêter là-dessus un instant. Les enfants de la désobéissance. Un enfant. Saviez-vous que vous, à l'origine, Je peux prouver par la parole de Dieu que vous, toute personne qui est ici, vous étiez vivant dans votre arrière-grand-père. Et de votre arrière-grand-père, vous êtes passé à votre grand-père, puis à votre père, pour arriver à vous. Le saviez-vous? La Bible dit, je crois que c'est Hébreux 7, que Melchisédek, lorsque Abraham revenait de la défaite des rois, qu'Abraham a payé à Melchisédek la dîme de tout le butin. Et ici, Paul dit maintenant que Lévi, qui a perçu la dîme, était encore, il a payé la dîme, car il était encore dans les reins d'Abraham lorsque celui-ci rencontra Melchisédek. Alors, tout ce qu'Abraham a fait, donc, nous voyons qu'Abraham l'a fait avec Lévi en lui. Il était son arrière-grand-père. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra les patriarches, Lévi. Ainsi donc, vous voyez, c'est ici qu'apparaît d'une manière parfaite la prédestination. Maintenant, dans ces messages, je veux insister sur les choses que je vous ai dites dans le message, au sujet de cette lumière du soir dont Dieu avait dit qu'elle viendrait sur la terre. Et remarquez qu'alors, la bête qui devait venir sur la terre allait séduire tous ceux dont le nom n'a pas été mis dans le livre de vie de l'agneau, immolé avant la fondation du monde. Dans la pensée même de Dieu, Dieu, le grand esprit, au commencement, avant qu'il y ait un commencement, il était Dieu. Et le saviez-vous, vous étiez en lui à ce moment-là. Si vous êtes maintenant un chrétien, vous étiez en lui à ce moment-là. Et alors, si l'on est ainsi, toute la divinité a pris forme corporellement dans la personne de Jésus-Christ. Et alors, quand Jésus est mort à la croix, je suis mort avec lui, parce que j'étais en lui à ce moment-là. En effet, il était la plénitude de la parole manifestée. Il savait que nous, nous serions manifestés plus tard. Et nous avons été au calvaire avec lui. Nous sommes allés au tombeau avec lui. Et nous sommes ressuscités avec lui, dans sa résurrection. Et maintenant, par son esprit, nous sommes montés jusqu'au trône de la grâce. Nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, toujours. En effet, de même que le germe de la vie naturelle est fécondé, transmis sous forme de germe d'un père à un autre, puis à un autre et à un autre, de même aussi la vie de Christ qui est fécondée. C'est pour cette raison que Dieu utilise l'esprit d'Élie à 5 reprises. Qu'est-ce? Il est transmis de l'un à l'autre. De même que votre vie naturelle et vos traits vous ont été transmis par la reproduction naturelle de votre Père. De même pour l'Esprit de Dieu qui a été prédestiné avant la fondation du monde. Et quand toute la parole de Dieu, dans sa totalité, a eu son aboutissement dans un corps humain appelé Jésus-Christ, c'est dans ce corps que Dieu m'a fait expier mes péchés. C'est là, en lui. Ensuite, il m'a relevé, il m'a ressuscité avec lui dans la résurrection. Et maintenant, nous sommes assis avec lui, avec le pouvoir et l'autorité sur chaque démon. Oh, si seulement vous pouviez croire en ce que Dieu a donné. Mais si vous n'êtes pas assis là, vous n'avez pas ça. Et si vous êtes assis là et que vous n'y croyez pas, et que vous avez peur d'agir, vous ne l'utiliserez jamais. Mais si vous êtes assis là, vous l'utiliserez parce que vous avez été destiné à faire ce que vous faites. Pharaon, d'autre part, a été suscité à dessein, dit la Bible, pour être Pharaon. Judas Iscariote a été suscité pour être le fils de perdition. Maintenant, remarquez ces grandes vérités que nous allons aborder. Or, nous voyons que l'Église a refusé d'accepter que la parole de Dieu domine sur elle. Et à sa place, elle a accepté Barabbas. Maintenant, si vous voulez la référence, ça c'est Matthieu 27, 15 à 23. Qu'est-ce que cela a eu pour conséquence? Quelle position cela a-t-il entraîné? Maintenant, pensez-y. Quand le monde des églises et sa vie bien organisée, des hommes justes, saints, c'est ce qu'ils croyaient être, et aux yeux des gens, c'est ce qu'ils étaient. Ils ont crucifié Jésus et ont dit, « Nous ne voulons pas que cet homme domine sur nous. » Et Jésus était la plénitude de la parole de Dieu. 1 Jean 1 le déclare. Ils ont dit, « Nous ne voulons pas que cette parole de Dieu domine sur nous. » Pourtant, il était la parole. Mais leurs yeux étaient aveuglés. Ils ne voyaient pas ce qu'il était. En effet, il était la réponse directe à chaque prophétie qui devait s'accomplir en lui. Maintenant, nous le croyons tous, parce que nous regardons en arrière pour constater que c'est arrivé. Mais si le monde, celui qui existe actuellement, ce présent âge mauvais, s'il avait été celui qui existait là-bas à cette époque-là, les gens auraient fait la même chose que ce qu'ils font aujourd'hui, parce que c'est toujours la même parole qui est manifestée pour cet âge-ci. C'est ce qu'il fera. Les gens ne peuvent pas faire autrement. Ce sont des enfants de la désobéissance, livrés à une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge et qu'ils soient condamnés à cause de ça. Remarquez, quand le monde des églises n'a pas voulu accepter Jésus, la parole manifestée de ce jour-là. Pourquoi? Parce qu'ils en avaient une interprétation différente. Mais ils auraient dû savoir qu'il était cette parole, puisque tout ce que Dieu avait dit qu'il ferait, il l'avait fait. Et il leur a dit, « Sondez les Écritures pour cette heure-ci, et si je ne remplis pas les conditions, ce qui avait été annoncé à mon sujet, alors ne me croyez pas. » Ils ont dit, « Nous croyons Moïse. » Il a dit, « Si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce que Moïse a parlé de moi. » Et ils ne voyaient toujours pas. Le Dieu du ciel lui-même mourait sur la croix, en prononçant les paroles même que le prophète avait dit qu'il prononcerait. Et ils ne voyaient toujours pas. Voyez, ils n'étaient pas de la même espèce que lui. Ils n'étaient pas la parole. Pas la parole. Et ils, pourtant, ils étaient très religieux. Mais ils n'étaient pas la parole, car elle aurait reconnu sa place pour cette heure-là. Remarquez comme les Écritures s'enchaînent admirablement bien les unes avec les autres, dans chaque âge. Maintenant, remarquez, quand le monde des Églises n'a pas voulu que la parole de Dieu domine sur lui, il a accepté un meurtrier, Barabbas. Qu'est-ce que cela a eu pour conséquence? Cela a élevé Satan, le Dieu de cet âge mauvais, jusqu'à la place qu'il a toujours voulu avoir. Maintenant, écoutez. En effet, on n'a pas dit de Satan qu'il était le Dieu d'aucun autre âge que celui-ci. On n'a pas dit qu'il était le Dieu de l'âge de Noé. On n'a pas dit qu'il était le Dieu de l'âge de Moïse, le Dieu de l'âge d'Élie. Mais c'est de cet âge mauvais qu'il est le... Oh, ne manquez pas ceci. Il est le Dieu de cet âge mauvais, adoré par des millions et des milliards de gens. Et ils ne le savent pas. Mais laissons l'Écriture le dévoiler ce matin. Et voyons un peu. Après quoi, vous saurez. Laissez l'Écriture. C'est comme dans les réunions de discernement. Quand le Saint-Esprit vient dans sa parole et qu'il désigne un certain homme en disant, « Vous n'avez pas le droit de vivre avec cette autre femme. Pourquoi avez-vous fait ça il y a 10 ans, quand vous êtes parti avec la femme de cet homme ?» Qu'est-ce qu'il fait là? Il le dévoile. Il démasque Satan, qui tient cet homme prisonnier, ou cette femme, qui vit avec le mari d'une autre, ou les péchés qu'ils ont commis, les choses qu'ils ont faites. Qu'est-ce que cela a pour conséquence? Ça le démasque. Les médecins prennent des instruments pour chercher ce qui ne va pas. Ils n'y arrivent pas. On n'arrive pas à savoir. Mais là, le Saint-Esprit arrive et il révèle ce qu'il est. Il le démasque. Voyez, voilà ce qu'est la parole de Dieu. Elle est une lumière qui luit dans les ténèbres. Prenez, par exemple, un bruit dans la chambre. Ça peut sembler mystérieux, un tas de choses qui grouillent, mais vous ne savez pas ce que c'est. Allumez la lumière, vite! Les grillons, les blattes, ce sont des enfants des ténèbres. Et quand la lumière jaillit, ils se dispersent. Ils sont sortis du milieu de nous parce qu'ils n'étaient pas des nôtres, dit la Bible. Voyez, ils ne peuvent pas vivre dans la lumière du monde. En effet, en ces derniers jours, le Dieu du ciel a envoyé sa lumière afin d'éclairer le sentier de ses enfants, pour qu'ils n'aient pas à marcher dans les ténèbres et à trébucher, mais qu'ils puissent marcher dans la lumière de la splendeur de Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Remarquez, Satan n'a pas été appelé le Dieu d'aucun autre âge que celui-ci. C'était son ambition d'être comme Dieu dès le commencement. Lisons-le. Nous allons prendre notre temps. Retournons à... Tenez, je l'ai noté. Ésaïe 14. Revenons ici à Ésaïe 14 un instant et voyons ce que Dieu a dit. Le Dieu, ce que Satan a fait. Ésaïe 14, 12 et 14. Remarquez, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu as été précipité à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, donc des fils de Dieu. Et je m'assiérai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du septentrion. L'ambition de Satan, c'était d'être adoré comme Dieu. Il a entraîné avec lui les deux tiers des étoiles du ciel. Il s'est élevé au-dessus de ces étoiles. Il leur a prêché et il en a séduit les deux tiers. Vous voyez ça? Très bien. Remarquez, c'est là son ambition. Et maintenant, il est prêt, avec son épouse, soigneusement sélectionnée et instruite dans sa propre connaissance. Vous voyez, toute fardée par sa tromperie, avec de grands bâtiments et de grandes dénominations, des vernis de connaissances et de théologie, intelligente, intellectuelle, instruite, à séduire le monde entier et à devenir un Dieu. C'est ce qu'il a fait. Tout cela a son aboutissement dans la personne de l'Antichrist, qui est déjà couronné vicaire de Dieu, par son épouse scientifique qui aime le monde, drapée dans toute la pompe d'une instruction religieuse intellectuelle. Elle devient religieuse comme lui, et ce, de par l'interprétation qu'il donne de la parole de Dieu, comme il l'avait fait avec Ève, et comme son fils Caïn l'avait fait. Bon, vous dites, le fils de Satan? Montrez-moi un seul endroit dans la Bible où Caïn a été appelé le fils d'Adam. La Bible dit qu'il était le fils du malin, la semence du serpent. Non, le couvercle a été ôté maintenant, frère. La pyramide a été ouverte, comme la révélation l'a montré. Remarquez ce qu'il va faire. Ses pensées. Il pensait que Dieu résidait dans la beauté de ce monde. C'est ce qu'il a fait dans le ciel. Le péché n'a pas du tout commencé dans le jardin d'Éden. Il a commencé dans le ciel, quand Lucifer, le fils de l'aurore, s'est élevé par la beauté et qu'il a voulu avoir un royaume plus beau que celui de Michel. Il pensait que Dieu résidait dans la beauté. Et remarquez qu'un, il ne voulait pas de sacrifice sanglant. Il s'est présenté là, il a offert des fruits ou de la beauté des champs sur son autel. Très religieux, il a fait tout exactement comme Abel. Il a offert un sacrifice, il s'est prosterné devant Dieu pour l'adorer. Il a été obéissant à tout point de vue, mais sans avoir la révélation de la parole. Et c'était la parole qui, dès le commencement, était le plan de Dieu. Mais Dieu avait révélé, par une révélation, la chose même qu'il a confirmée et ponctuée comme étant la chose juste. Ce n'était pas par la religion, pas par un autel, pas par l'appartenance à une église, pas par le fait d'offrir un sacrifice, pas par le fait d'être sincère, mais c'était par la révélation de la parole de Dieu. Dieu qui lui a révélé là que sa mère n'avait pas pris une pomme qu'un serpent lui aurait donnée, mais elle avait eu une relation sexuelle avec la personne de Satan sous la forme de la bête, pas un reptile, mais l'espèce la plus intelligente, la plus rusée qu'il y avait dans les champs, à l'image de l'homme, la seule dont la semence pouvait se croiser avec la sienne. Maintenant, la science essaye de le retrouver. Ils ne le retrouveront jamais, parce que tous les os de son corps ont été changés. Mais c'est bien ce que la Bible déclare. Remarquez maintenant ce que cet individu fera. Cet individu, il s'assiera dans le temple de Dieu, c'est-à-dire dans l'Église, se révélant comme étant Dieu. Maintenant, si vous voulez le lire, c'est 2 Thessaloniciens 2, 3 et 4, et Apocalypse 13, 4, 11 et 12. Alors que les deux prophètes, Jean et Paul, tous les deux, ils ont parlé de ce qu'il serait dans les derniers jours. Lisez-le donc, parce que je l'ai noté ici, mais pour gagner du temps maintenant. Le jour où nous vivons est appelé dans la Bible le jour de l'homme. Le jour de l'homme. Ceci n'est pas le jour de Dieu. Dieu n'est pas le Dieu de cette terre. La Bible dit qu'il ne l'est pas. Il est le Dieu du ciel. Mais bon, ceci n'est pas le jour de Dieu. Ceci, c'est le jour du choix. Ou bien vivre pour aujourd'hui et mourir, choisir Dieu et vivre. Et Dieu est la parole. Et la parole, c'est la parole manifestée pour l'heure et le jour. Remarquez, le jour de l'homme, si vous voulez le noter, j'avais l'intention de le lire, mais c'est 1 Corinthiens 5, 1 à 5. 1 Corinthiens 4, 1 à 5, pardon. 1 Corinthiens 4, 1 et 5, où Paul parlait d'être jugé par des hommes au jour de l'homme. Ce jour, pourquoi l'appelez-vous le jour de l'homme, me direz-vous? C'est le jour où les œuvres produites par la connaissance de l'homme sont glorifiées. Regardez donc toutes les vantardises des communistes. On essaie d'envoyer quelqu'un sur la lune. Dieu, lui, essaie d'envoyer quelqu'un au ciel. Voyez? Mais regardez les millions, les milliards et les billions de dollars qu'ils dépensent en efforts inutiles. Quand ils arriveront là-bas, ils ne trouveront rien. Mais qu'est-ce qu'ils ont, ces gens? Je me moque de la lune. Je veux passer si vite à côté de la lune que je ne la verrai même pas. Continuer à monter toujours plus haut. Je veux dépasser la voie lactée. Continuer, aller toujours plus loin. Oui. Le monde d'aujourd'hui se voue à la connaissance qui est venue par Satan. Et le jour de l'homme est glorifié, non pas par la parole de Dieu, mais par la connaissance que l'homme possède. Maintenant, réfléchissez. Laissez pénétrer ça. Et quand vous repasserez cette bande et que vous arriverez ici, à cet endroit, arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Ses œuvres sont élevées au-dessus de la parole et des œuvres manifestées de Dieu. La sagesse de Satan qu'il a donnée à Ève au commencement. Maintenant, écoutez, ne manquez pas ceci. La sagesse de Satan est élevée jusqu'au trône de l'adoration dans l'homme, au-dessus de la parole de Dieu confirmée pour l'heure. Nos églises le démontrent par l'heure. Leurs séminaires, leurs établissements d'enseignement, où, selon eux, on en sait plus long que la parole de Dieu. Et là, le docteur un tel, le maître un tel, le professeur un tel, ont élevé leur propre connaissance, leur prétendue vérité, qui vient de Satan, au-dessus de la promesse de Dieu confirmée, qui a été rendu clair sous leurs yeux. Et les hommes tombent dans le panneau. Voyez. Par ses réalisations scientifiques, il essaye de démontrer la fausseté de la parole de Dieu. Pensez donc. Lui, par sa théologie, c'est-à-dire celle de l'homme, il explique la parole de Dieu aux gens, et de nouveau, il en annule l'effet comme il l'avait fait dans l'âge dénominationnel où Jésus apparut sur terre. Jésus a dit, « Hypocrite, vous, par votre tradition, c'est-à-dire par leur interprétation, vous avez pris la parole de Dieu et vous en avez annulé l'effet sur les gens. » Et ils ont fait la même chose aujourd'hui. Elle ne produit aucun effet. Remarquez, eux, les gens, l'élèvent au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. N'est-ce pas ce que 2 Thessaloniciens dit qu'il ferait? L'autorité d'une église dénominationnelle. Les gens qui croient cette dénomination plus qu'ils ne croient Dieu. Et Dieu est la parole. Ils vont croire leur credo dénominationnel plus que la parole, ce qui l'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Et il n'y a qu'un seul Dieu, c'est la parole. Tout ce qu'on appelle Dieu, en sorte que lui-même, comme s'il était Dieu, s'assied dans l'église de ce Dieu. Il prouve qu'il est Dieu, puisqu'il a amené les gens à l'adorer. Dieu est la parole. Et lui, il s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Et il n'y a qu'un seul Dieu, et ce Dieu, c'est la parole. Voyez? Et tout ce qu'on appelle Dieu, c'est-à-dire que le Dieu de cet âge-ci s'est élevé au-dessus de la vraie parole de Dieu confirmée. Ça, c'est Jean 1, voyez? Au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, en sorte que lui-même, comme s'il était Dieu, s'assied dans le temple de Dieu, avec autorité. Regardez, et on le loue pour ça. Oh, Dieu, fais que les gens voient cette tromperie. Les gens de cet âge mauvais le louent pour ça, et croient solennellement en lui. Maintenant, voyez-vous quel est le Dieu de cet âge mauvais et quels sont ses serviteurs? Maintenant, observons comment la chose se manifeste. Il dit qu'il construit un monde où les gens pourront mieux vivre. Il le fait par sa connaissance, tout en faisant abstraction de la parole infaillible de Dieu. Mais en rassemblant les gens dans des dénominations, des credos, des conceptions intellectuelles et scientifiques et tout, il construit un monde où l'homme pourra mieux vivre. Mais il ne tient aucun compte de la promesse de Dieu qui dit que la seule époque où le monde sera vivable sera dans le millénium. Vous savez, à mon avis, il a construit un monde où on peut mieux pécher et non mieux vivre. Remarquez, est-ce bien ce qu'il a fait? Il a légalisé le péché. Il a légalisé la consommation de whisky et de cigarettes. Et dans les églises, il a légalisé le fait qu'une femme aux cheveux courts puisse être membre de l'église. Maintenant, arrêtez-vous là-dessus un instant. Elle peut porter des shorts, se maquiller, tout en faisant partie de son groupe religieux. Alors que ces choses sont carrément contraires à la parole de Dieu. Lui, il dit qu'il n'y a pas de mal à ça. Voyez-vous sa connaissance? Mais qu'est-ce que cela a à voir avec la femme, ça? C'est exactement comme de prendre du fruit défendu, ou bien de ne pas prendre du fruit défendu. Voilà. Dieu a dit de ne pas le faire, mais lui, il le fait. Et elle le croit, et elle l'aime à cause de ça. Elle est Dieu. Ses propres actions le démontrent. Elle dit qu'elle l'aime, mais c'est Satan qu'elle aime. Elle adore le Dieu de la mode, le Dieu du monde, les déesses de Hollywood. Elle l'aime, lui, mais elle hait la vraie parole de Dieu, qui est le seul vrai Dieu. Il légalise ces choses dans les églises. Il n'y a pas de mal à ça. Nos femmes peuvent faire ceci, cela ou autre chose. Mais elle n'est même pas admise dans la présence du Dieu vivant, à moins qu'elle se repente. Voyez, il est le Dieu de la beauté de ce monde. C'est ce qu'il est. Elle veut être belle. Et il est le Dieu de la beauté depuis le commencement. Il peut réussir, et il a effectivement réussi, par sa connaissance de la science et des produits, à produire la beauté pour cet âge modèle, je veux dire, cet âge moderne du mal. Il en a produit la beauté. Remarquez, il y a lieu de noter ceci, de le remarquer. Au commencement, Seth et ses enfants n'ont jamais suivi la voie de la science. Maintenant, nous allons parler de la science pendant quelques minutes. Si je dis ceci, ce n'est pas pour excuser mon ignorance, mais la bande d'ignares, c'est tous ceux qui nient la parole de Dieu. Voyez, bien sûr, il y a lieu de noter ceci. Regardez bien, les enfants de Seth n'ont jamais suivi la voie de la science. C'était d'humbles bergers, paysans, etc. Mais les enfants de Caïn, eux, oui. Pourquoi? Inspirés par leur papa, le diable. Caïn, inspiré par son papa, le diable. Et eux, inspirés par cette semence qui suivait son cours. Observez la semence de Dieu qui a suivi son cours au fil des âges. Et observez à quoi elle aboutit aujourd'hui. Les chrétiens, les véritables chrétiens, ne s'occupent pas de recherches scientifiques et de ce genre de choses. Non, dans un instant, nous allons y venir. Mais ceux de la semence de Caïn, oui, car ils avaient la nature de leur père, le diable, rempli de la connaissance de ce monde, de beauté, de science et tout ça. Les enfants de Caïn, c'étaient des scientifiques. Ils étaient instruits. Ils jouaient des instruments de musique. Musique, un Elvis Presley contemporain. Ce genre de choses que la direction de l'école autorise là dans la rue, tous les samedis soirs. Des bâtisseurs de villes, ils embellissent les femmes pour assouvir leur convoitise personnelle. Alors que le diable fournit du maquillage aux femmes, leur coupe les cheveux, leur fait mettre des shorts et ce genre de choses-là, c'est pour assouvir ses propres convoitises impures. C'est assez direct, mais je ne sais pas comment le dire autrement. Maintenant, nous savons que l'évangile de Satan est un évangile de science et de progrès. Il l'a prêché en Éden. Ce n'est pas Dieu, c'est Satan qui l'a prêché. La science du progrès. La science et le progrès, c'est ça l'évangile de Satan. Regardez jusqu'où il nous a menés avec ça aujourd'hui. Voyez, remarquez, il l'a prêché en Éden. À qui? À l'épouse d'Adam. Et elle est tombée dans le panneau. Il l'a séduite en l'amenant à mettre en doute une des paroles de Dieu. Voyons ce qu'il a pu lui dire. Il a dû dire, il n'est pas concevable scientifiquement qu'on meure quand on fait partie de cette sainte Église. Ou on va t'instruire et t'enseigner à ne pas croire à des choses aussi absurdes que la mort. Peu m'importe que la parole de Dieu le dise, ça ne tient pas debout. Oh, regardez-le aujourd'hui. Dieu est un Dieu bon. Tu fais partie de sa sainte Église. Voyons, tu ne peux pas mourir. Mais Dieu a dit que tu mourrais. Alors la question est réglée. Vous le voyez aujourd'hui? Oh, vous n'avez qu'à devenir membre de l'Église, c'est tout. Ça ne dépend pas de ce que vous faites, de ceci, cela ou autre chose. Vous n'avez qu'à venir à l'Église et à être un bon membre. Vous coupez les cheveux pour ce que ça peut bien faire. Portez des shorts, vous maquillez, allez danser, une petite bière de temps en temps, ça ne vous fera pas de mal, pourvu que vous ne forciez pas la dose. Franchement, je souhaite même que vos enfants prennent, comme ça ils pourront voir s'ils aiment ça ou pas. Le voilà, le Dieu de cet âge, mauvais. Dieu est un Dieu bon. J'ai tellement entendu ça que j'en ai mal au ventre. Dieu est aussi un Dieu de justice. Ce n'est pas un vieux grand-papa gâteux qu'on peut manipuler et dont les petits-enfants n'ont aucun péché. Il est un Dieu de justice et de sainteté. Il l'a démontré dans le jardin d'Éden avec ses premiers enfants. Si vous franchissez la limite posée par une seule de ses paroles, vous êtes mort. La même chose s'applique aujourd'hui. Et remarquez, il a prêché à Ève ce genre d'évangile-là, scientifique, social, cultivée, progressiste, et l'épouse d'Adam y a cru. Et il a réussi à faire gober les mêmes arguments à la prétendue épouse de Christ, l'église du second Adam. C'est vrai. Oh, ce n'est pas Dieu, ça. Dieu est trop bon pour faire ça. Oh, du moment que tu vas à l'église, si tu crois. Le diable croit. Il ne fait pas semblant, il croit vraiment. Il n'est pas sauvé. Si tu crois, il raconte à la seconde épouse ou à l'épouse du second Adam la même chose qu'à la première. Quelque chose comme, voyons, la guérison divine, ça n'existe pas. Nous pouvons le prouver. Il n'y a jamais eu de cas prouvé. Et ce baptême au nom de Jésus, tu n'as donc pas compris que c'est moi l'autorité de l'Église qui dit? Nous avons réglé cette question à Nicée, Rome, quand ces trois esprits impurs sont sortis du dragon, des faux prophètes et tout. Nous croyons qu'il y a une trinité de Dieu. Oh, miséricorde, on ne peut pas trouver plus païen que ça. N'allez jamais vous présenter devant Dieu avec une chose pareille. Essayez de vous tenir en sa présence. Oh, ça ne change rien, ça, que vous soyez baptisé dans les titres de Père, Fils, Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça peut bien changer? Ça a changé quelque chose, à un point tel que Paul a ordonné à un groupe de baptistes de se faire rebaptiser au nom de Jésus-Christ, pour que le Saint-Esprit puisse ensuite venir sur eux. Et c'est aussi ce qui a poussé cet apôtre à s'écrier et à dire, « Si un ange du ciel vient prêcher autre chose, qu'il soit maudit !» Bien sûr que ça change quelque chose. Oh là là! De nos jours, le baptême du Saint-Esprit n'existe plus. C'était seulement pour les apôtres. C'est du passé. Et des prophètes, ça ne s'est jamais vu. Des miracles, ces choses n'ont aucun fondement scientifique. Malachie 4, ça c'était pour un autre âge. Jean 14, 12, oh, Jésus ne voulait pas vraiment dire ça. Luc 17, 30, oh, ça, ce n'était qu'un mythe. Vous voyez, c'est mal interprété. Ça ne se trouvait pas dans l'original. Quelle zânerie! Alors que le Dieu Tout-Puissant descend au milieu de nous et le prouve, quand il dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, il prouve que c'est bien vrai. Peu m'importe qui le conteste, Dieu interprète lui-même sa parole. Il a dit qu'il ferait cette chose dans les derniers jours. Il y aura de la lumière au temps du soir, et il y a de la lumière pour la manifestation du Fils de Dieu. Le soleil qui se lève à l'est, c'est le même soleil qui se couche à l'ouest. Le prophète a dit, il y aura un jour qu'on ne pourra appeler ni jour ni nuit. C'est un jour maussade, avec des nuages, comme s'il voilait la face du soleil. Mais il a dit, vers le soir, la lumière paraîtra de nouveau. Le même Fils, il est l'alpha et l'oméga. Il a été prédit que le même Fils qui s'est levé à l'est se lèverait de nouveau à l'ouest, dans les derniers jours, juste avant la fin du jour. Je ne sais pas comment eux interprètent cela. Dieu interprète lui-même sa parole. Il la démontre. C'est le temps du soir. C'est triste, mais elle est vraiment tombée dans le panneau de nouveau. L'épouse de Christ est tombée dans le panneau. Elle a accepté la connaissance intellectuelle d'un prédicateur de séminaire, plutôt que de croire la pure parole de Dieu confirmée. Maintenant, vous les ministres qui êtes dans le pays, où que vous soyez, il se peut que vous ne soyez pas d'accord sur ceci. Je ne cherche pas à vous blesser. Je parle à mon propre groupe. J'essaie juste, si vous voulez rester là à écouter, je serai vraiment content que vous l'entendiez. Alors, écoutez-le. Voyez, mais je ne fais que leur dire ce qu'ils ont vu. Je le leur montre, et Dieu prouve que c'est vrai. Voyez, c'est l'heure. On n'a besoin de personne pour interpréter ça. Votre connaissance mondaine n'a rien. Il se peut que vous ayez une licence, un doctorat en théologie, ou n'importe quoi d'autre. Ça ne veut absolument rien dire. Dieu interprète lui-même sa parole. Il l'a promis, et voici. Mais par la connaissance du séminaire, la prédication dénominationnelle a amené la terre entière à être dans l'admiration derrière la bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle est passée du paganisme à la papauté. Vous voyez à quoi elle va aboutir? Elle y croit. Elle croit à la connaissance dont il lui fait part. Effectivement, maintenant regardez bien. Effectivement, les deux épouses fiancées ont cru à la connaissance de Satan, laquelle était contraire à la parole de Dieu. L'épouse d'Adam a cru à la connaissance de Satan, laquelle était contraire à la parole de Dieu. Et l'épouse de Christ a cru à la connaissance de Satan, en cet âge intellectuel mauvais, laquelle est contraire à la parole de Dieu. Et remarquez, Ève, sur le plan naturel, en croyant ça, elle a précipité toute l'espèce humaine dans la mort. L'épouse naturelle, Adam, l'homme naturel de la terre, son épouse, avant qu'il puisse s'approcher d'elle pour qu'elle soit sa femme, elle a précipité toute l'espèce humaine dans la mort. Que ce soit scientifique ou pas, nous mourrons quand même, parce que c'est ce que Dieu a dit. Que vous soyez dans un Éden saint, une église sainte, une dénomination sainte ou quoi que ce soit, vous mourrez le jour où vous douterez de la vérité d'un seul mot de la parole de Dieu, alors qu'elle aura été confirmée et démontrée devant vous. Ce jour-là, vous vous serez séparés de Dieu. Même pas toute la phrase, un seul mot. Quiconque ajoutera un seul mot ou retranchera un seul mot, ce jour-là, vous mourrez. Remarquez, l'épouse d'Adam a causé la mort naturelle de son espèce, l'espèce humaine. Et l'épouse du second Adam, l'épouse fiancée à Christ, a précipité toute l'Église dans une mort dénominationnelle, en lui faisant prendre la marque de la bête, au moyen de grandes dénominations scientifiques, intellectuelles. Nous sommes baptistes, nous sommes presbytériens, nous sommes pentecôtistes, etc. Nous avons ceci et nous possédons plus de biens, nous sommes reconnus par le gouvernement, nous sommes partout dans le monde et toutes sortes de choses semblables. Et la haute société, le maire de la ville et tout, ils viennent chez nous. Même le président vient faire dire une messe chez nous et on vient faire ceci, cela ou autre chose. Le monde entier a été précipité dans une mort dénominationnelle, spirituelle. L'Église entière, elle est morte. Vous dites, vous ratissez large. Jésus a dit, ce qui arriva au jour de Noé, où 8 âmes furent sauvées, arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Au jour de Lot, où 3 furent sortis de Sodome, en ce jour-là, déjà, il y a là un groupe qui est déjà en dehors, souvenez-vous. Mais ce sera comme à cette époque-là, quand le Fils de l'homme sera manifesté. Regardez dans quel jour, regardez où nous vivons. Maintenant, elle a amené le monde entier à accepter la direction scientifique d'un programme pédagogique que lui a fourni Satan, sous le nom d'une église, la direction d'un programme scientifique pédagogique. Je suis en train de vous dépeindre le Dieu de ce monde. Alors que, comme Ève, il était en son pouvoir d'être entièrement rempli de la parole de Dieu. Elle aurait pu recevoir la parole de Dieu, mais qu'est-ce qu'elle en a fait? Plutôt que d'attendre le baptême du Saint-Esprit, elle a laissé la science lui démontrer que le Saint-Esprit, c'était seulement pour les disciples. Plutôt que de laisser la guérison divine continuer à agir, elle, qui devrait maintenant ressusciter les morts et accomplir de grands miracles, voilà qu'elle a laissé Satan, au moyen d'hommes religieux sous la conduite de celui-ci, s'emparer de la parole de Dieu et chercher à dire que c'était pour un autre âge. Et elle a cru ça. Alors que la Bible dit, « Vous ferez aussi les choses que je fais. » C'est Jésus qui a dit ça. Allez par tout le monde et prêchez l'Évangile à toutes les créatures. Nous sommes toujours des créatures. Voici les signes qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Elle nie tout ça. Elle nie tout le surnaturel. Elle a troqué ça contre sa conception à lui, une conception intellectuelle de la Bible. Alors que des prêtres et des prétendus saints-pères, que des évêques, des archevêques, que des surveillants régionaux, des surveillants généraux, et ainsi de suite, y ont ajouté leur interprétation personnelle. Et Dieu les a plantés là, ils sont tout ce qu'il y a de plus mort. Dans les derniers jours, tout ce qu'il reste, c'est une bande de petits pentecôtistes qui font marcher leur musique aussi fort que possible, qui courent d'un bout à l'autre de la salle, qui parlent en langue et qui poussent des cris, et qui ont l'apparence de la piété, mais qui renient la parole. Dites-leur de se faire baptiser au nom de Jésus-Christ ils vous riront au nez. Mais malgré tout ça, Dieu continue à confirmer la chose. Il prouve que sa parole est bien vraie. Remarquez, cet arbre dont Satan a fait prendre à Ève, c'était l'arbre du bien et du mal. C'était un arbre mixte. Maintenant, considérez le jour où nous vivons, où il est en train d'appeler une épouse à sortir. Il a là une église qui prétend faire le bien, alors qu'elle est mauvaise du fait qu'elle nie la parole. Un arbre mixte. Oh, vous direz, ils ont de grandes associations de bienfaisance. Ils aident dans tel domaine. Et la Croix-Rouge approuve ça. Et toutes les écoles, elles, regardez un peu. Oh, mais ne niez qu'une seule parole, ça suffit pour vous faire mourir. Peu importe combien c'est intellectuel, combien c'est bon. Jésus a dit, un peu de levain fait lever toute la pâte. Une pointe de levain gâche la pâte. Une seule parole de Dieu déplacée gâche tout le tableau. Qu'arriverait-il si mon bras se trouvait à la place de mon pied? Voyez? Qu'arriverait-il si mon oreille se trouvait ici à la place de ma main? Un peu de levain fait lever toute la pâte. Vous direz, comment savez-vous que c'est vrai? Dieu le prouve que c'est vrai. Il le confirme. Il l'a dit ici dans la parole. Ensuite, il le prouve. Voilà comment nous savons si c'est vrai ou pas. Ne niez qu'une seule parole pour mourir, c'est tout ce qu'il faut. Ça a produit les mêmes résultats en cet âge mauvais, la mort spirituelle, tout comme ça avait produit la mort physique pour toute l'espèce humaine. Remarquez comment Satan s'y est pris pour ramener les gens de cet âge scientifique, du temps de Noé, à s'appuyer sur leur intelligence. La Bible nous dit dans les Proverbes de ne pas nous appuyer sur notre intelligence, et que toute parole d'homme soit reconnue pour mensonge, et que celle de Dieu soit reconnue pour vraie. Mais Satan, par sa connaissance, depuis le commencement au Jardin d'Éden, il a amené les gens à s'appuyer sur leur intelligence. Et vous savez, grâce aux grandes usines Max Factor qu'il avait à cette époque-là, il a rendu les femmes si belles que ça a amené les fils des hommes, les fils de Dieu plutôt, à tomber dans le péché et à les épouser. C'est vrai, les femmes étaient si belles, si jolies. Maintenant, prenez une femme ordinaire dans la rue aujourd'hui. Beaucoup d'entre vous ont lu cette histoire. Vous n'en aviez jamais entendu parler, parce que c'était avant mon temps. Pearl O'Brien, combien ont déjà entendu parler d'elle? Bien sûr, elle était considérée comme la plus belle femme du monde. Eh bien, il n'y a pas une seule écolière qui fréquente l'école aujourd'hui qui ne soit deux fois plus belle qu'elle. Pourquoi donc? La beauté des femmes doit apparaître dans les derniers jours. Elles se sont coupées les cheveux, on leur fait porter des robes de petites filles, elles portent des shorts, des bikinis, ou le nom que vous donnez à ça. Elles mettent du fard, du rouge à joues, et toutes ces choses-là, pour paraître autrement qu'elles sont, voyez? Mais c'est par la connaissance scientifique qu'ils ont pu réaliser ceci. Savez-vous qu'on dépense plus en cosmétiques pour les femmes que ce qu'on dépense aux États-Unis, deux ou trois fois plus que ce qu'on dépense en nourriture? Ça, c'est prouvé, c'est vrai, en cosmétique. Remarquez, les fils de Dieu virent que les filles des hommes, pas les filles de Dieu, que les filles des hommes étaient belles. Et c'est ce qui a fait tomber les fils de Dieu dans cet égarement. Et ils prirent ce genre de femmes pour les épouser. Ce qui a amené un âge de prostitution, tout comme celui d'aujourd'hui, comme ce qui existait à Sodome, comme ce qui a été prédit pour aujourd'hui. Alors que les hommes et les femmes d'aujourd'hui font des échanges de conjoints. Si cette épouse-ci ne leur plaît pas, ils vont là-bas, à Reno, dans le Nevada, pour se marier, et, ou pour obtenir un divorce avec celle-là, et se remarier 15 minutes plus tard. Et les femmes sont si belles qu'elles sont presque irrésistibles. Qu'est-ce que c'est? Le diable! Voyez-vous que Satan, la beauté, c'est encore son rayon? Remarquez, ce péché ne leur a jamais été pardonné. Ce bel âge scientifique est justement l'âge mauvais que Dieu a exterminé de la face de la terre. Ce bel âge scientifique. Jésus a dit que ce serait de nouveau comme ça juste avant la venue du Fils de l'homme. pas vrai? Remarquez, Jésus a dit, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. » Quand ils cherchaient tous à épouser, maintenant observez, les fils de Dieu épousèrent les jolies filles des hommes, et Dieu ne le leur a jamais pardonné. Tout comme l'enseignement de Balaam, par lequel il a amené les jolies femmes intellectuelles et scientifiques de Moab à, avec leurs yeux accrocheurs, leurs phares, leurs poudres et leurs parfums raffinés, à séduire les fils de Dieu, au détriment de leurs propres femmes, dont le travail avait rendu les mains calleuses, qui ne portaient pas de maquillage. Elles les ont séduits et faisons des mariages entre nous, parce que nous sommes tous un même peuple. C'était un mensonge. C'était un mensonge et un exploit du diable pour amener les fils de Dieu à épouser les filles des hommes. C'était le mensonge du diable quand Balaam, ce faux prophète, a essayé de prophétiser contre Moïse, qui essayait de préserver la race, quand il a dit, « Eh bien, nous croyons le même Dieu, nous offrons les mêmes offrandes, nous avons les mêmes sacrifices, nous faisons tout exactement de la même manière, tellement proche que ça séduirait les élus si c'était possible. » Voyez, « Éloignez-vous d'elle, mon peuple, vous n'avez rien à voir avec elle. » Remarquez, il était peu probable que Dieu interprète sa parole à la génération méchante de Caïn. Non, Dieu n'interpréterait pas sa parole à ces gens-là. Remarquez, Dieu, par sa connaissance, aurait fait un monde d'une telle beauté, tellement scientifique et tellement rempli de péchés, qu'il serait obligé de le détruire. Est-ce que Dieu aurait fait ça, un monde d'une telle beauté? Regardez un peu. Dieu aurait rendu ses filles tellement belles, elle leur aurait fait enfiler des vêtements tellement sexy que ses fils les convoiteraient et commettraient adultère? Quoi? Dieu faire une chose pareille? Cette bande de Laodicéens nus, dévêtus, qui adorent le Dieu de ce monde par leur morale, leur instruction, leur habileté, leur beauté. Sortez du milieu d'elles, dit la Bible. Ne participez point à ses péchés et n'ayez point de part à ses fléaux. Un jour, Dieu fera pleuvoir du ciel de la grêle dont les grêlons pèseront jusqu'à 45 kilos chacun et il la détruira par lapidation, comme sa parole déclare qu'il l'a toujours fait, ses lois. Eh bien, si Dieu faisait une chose pareille, qu'il révélait sa parole à des gens comme ceux-là, il irait à l'encontre du but même qu'il poursuit. Dieu n'est pas insensé. Il est la source de toute sagesse. Donc, vous voyez d'où sont venues toutes ces choses? Elles sont venues de Satan. Elles sont encore de Satan. Et l'Église les a crues. Vous voyez, maintenant, vous les femmes, je fais de mon mieux pour vous montrer la parole de Dieu. La Bible dit, si une femme se coupe les cheveux, elle déshonore son chef, qui est son mari. Et son mari est le chef avec Dieu. Donc, elle déshonore Dieu et son mari. Or, ceci montre qui est à la tête du système ecclésiastique de ce monde. Ça montre qui est à la tête de celui-ci. C'est Satan, sous la forme d'un surhomme, une personne qui a de la connaissance, une super connaissance. Il en sait plus que tout le monde, peu importe ce que la parole dit. Lui, il en a son interprétation personnelle. Vous voyez, l'interprétation qui convient à cet âge mauvais. Remarquez qu'il projette de bâtir une super église dénominationnelle, le Conseil mondial des églises. Vous voyez, une super dénomination, afin que le monde entier l'adore, lui, la bête, sous le nom d'un christianisme unifié. Voulez-vous lire ça dans la Bible? Apocalypse 13, 6 et 8. C'est une tour de Babel contemporaine. Ne vous souvenez-vous pas que Nimrod, cet hypocrite, avait bâti cette grande tour et qu'il avait fait en sorte que toutes les autres petites villes lui payent un tribut? Babil et Babel, c'est la même chose. C'est juste un changement de nom au fil du temps. C'est maintenant c'est Rome qui est Babylone. Et le monde entier est conduit à Babylone. Il y est conduit par le Conseil mondial des églises, qui fera que chacune d'elles se prosterne devant elle. Et vous avez pris la marque de la bête sans vous rendre compte de ce que vous faisiez. En effet, mais ceux qui sont élus entendront la parole et sortiront de là. La dénomination, c'est tellement à l'opposé de la parole de Dieu. Il n'en a jamais eu une seule. Il n'a jamais agi dans une seule d'entre elles. et il n'a jamais agi avec une seule d'entre elles. J'aimerais qu'un historien me montre une seule fois où un prophète serait sorti de l'Église. Montrez-moi une fois où Dieu aurait béni une Église qui, après qu'elle s'était organisée, elle a été mise au rencard, elle est morte, après avoir reçu de ses conducteurs la sagesse intellectuelle du diable et refusé de recevoir la parole de Dieu, alors que celle-ci grandissait jusqu'à atteindre la stature parfaite de Christ. On en est à la tête maintenant. C'est tellement à l'opposé. Séparez-vous de cette Ève incrédule, vous, enfants de la lumière du soir. Satan, le dieu de cet âge, par sa connaissance, il amène les gens à manger de son arbre mixte du bien et du mal. Remarquez, Satan, par sa connaissance, il incite les gens de cet âge mauvais à manger de son arbre du bien et du mal. Il dit qu'il est en train de construire une plus grande civilisation chrétienne par sa connaissance du bien et du mal, une plus grande civilisation chrétienne. Mais la petite vierge de Christ, le petit troupeau, l'épouse parole, ne s'intéresse pas à sa connaissance. Elle se tient éloignée de lui, elle reste libre. Quelle est ? Maintenant, parlons d'elle un instant. Elle attend son Seigneur et sa lune de miel du millénium, c'est vrai, avec l'époux parole, puisqu'elle est l'épouse parole. La connaissance et la civilisation n'ont rien de commun avec le vrai christianisme. La civilisation et le vrai christianisme n'ont absolument rien en commun. La civilisation vient de la connaissance, ça nous le savons tous. Et la connaissance est venue de l'Éden. Cela a été démontré par ce qu'il a prêché en Éden. Et la connaissance produit la mort, pas vrai? Qu'est-ce qui a produit la mort dans le jardin d'Éden? La connaissance. Mais ça ne peut pas être de Dieu, donc c'est du diable. Ça, c'était bien dit. La connaissance, la science, l'instruction, voilà le plus grand obstacle que Dieu ait jamais rencontré. C'est du diable. Bon, je le sais, je vais recevoir des lettres à ce sujet. Je les attends. Regardez à quoi la culture nous a menés maintenant, voyez? Regardez ce qu'elle a fait. Où en sommes-nous? Nous nous sommes appuyés sur ces choses, sur notre propre intelligence basée sur notre science. Vous direz, et Dieu, alors, d'après vous, lui, c'est l'ignorance? Oh non! Dieu établira son propre type de civilisation sur la terre quand il la prendra sous son contrôle. Ceci est le monde de Satan. C'est lui qui est Dieu en ce moment, de sa connaissance mondaine et scientifique. Mais Dieu établira son propre type de civilisation. Ce ne sera pas une civilisation comme celle-ci. Souvenez-vous bien de ça. Ce ne sera pas le type de civilisation que nous avons aujourd'hui. Non, non. Celle-là sera conforme à sa parole et à son dessein. En effet, le Dieu du présent âge mauvais sera détruit et son royaume avec lui. Cet âge moderne, épris de connaissances, ne pourrait pas avoir de meilleur conducteur que celui qu'il a, Satan. Un pervertisseur de la parole de Dieu, comme il l'a été dès le départ dans le jardin d'Éden. Rien qu'une personne religieuse qui s'appuie sur sa propre intelligence. Comme je l'ai dit auparavant, Proverbe 3, 5, nous ne devons pas nous appuyer sur notre intelligence. Il leur faut un Dieu, parce que ce sont des humains. Alors, il leur fabrique ce qu'ils désirent. En tant qu'êtres humains, toujours, tous les êtres humains, quand nous sommes arrivés ici, nous y avons trouvé les Indiens qui adoraient même des idoles, le soleil et tout. Comme êtres humains, il leur faut un Dieu. Donc, ce grand âge intellectuel, il lui faut un Dieu. Alors c'est devenu le Dieu de ce monde, c'est devenu la connaissance, la dénomination, la science, d'avoir l'apparence de la piété, mais de renier ceux qui ont fait la force. Remarquez, leur Dieu leur fabrique précisément ce qu'ils désirent. Ils convoitent la chair, et c'est ce qu'il leur donne. Elles veulent porter des bikinis, qu'elles en portent. Voyez, s'il veut faire ceci ou cela, qu'il le fasse. Il n'y a pas de mal à ça. Ils vont à l'église. Leur mère était méthodiste, baptiste, pentecôtiste, presbytérienne. Laissez-les donc tranquilles. Voilà le Dieu de cet âge, intelligent, habile, scientifique. On n'a pas besoin de foi. On n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. C'est déjà prouvé par leur connaissance. Eh bien, nous sommes la plus grande église de la ville. Leur connaissance. Notre pasteur a un doctorat en théologie. Vous voyez, on n'a pas besoin de foi. On s'appuie sur la connaissance. Qu'ils vivent n'importe comment, pourvu qu'ils viennent l'adorer dans leur dénomination et leur credo. Voilà une grosse atteinte à leur réputation. Mais il faut voir les choses en face. Ils se moquent de la parole de Dieu en disant des choses contraires à la parole. Et par leur connaissance, ils essayent de prouver scientifiquement que la parole n'est pas vraie. Oh, dans quel âge vivons-nous? Voyez-vous le Dieu de cet âge? Remarquez, mais Dieu attend que l'iniquité de ces Amoréens des temps modernes soit à son comble. Ne vous en faites pas, à ce moment-là, son Moïse sera prêt. Un jour, il y aura un exode vers le pays promis. Un Moïse viendra et il appellera les gens à sortir. Il rétablira la foi des enfants pour la ramener à celle des pères. Ce sera là, un de ces jours. Est-ce que vous dites, eh bien regardez, nous sommes en plein essor. Bien sûr, c'est que l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Ça viendra, un de ces jours. Laissez-les se détruire eux-mêmes. La civilisation, la connaissance, pervertissent la parole de Dieu pour l'adapter à leur goût. Toutes les dénominations font la même chose. Alors Satan prêche son propre évangile de connaissance dans sa propre église. Dans le Nouveau Testament, il n'est question que de deux catégories de gens, les enfants de Dieu et les enfants du diable. Le saviez-vous? Voulez-vous noter une référence biblique pour ça? 1 Jean 3:10. Si vous voulez la référence, je l'ai sous les yeux, ici, je l'ai mise par écrit. Très bien, très bien. Dans Éphésiens 2:2, ils sont appelés les enfants de la désobéissance. Comme Ève, qui a désobéi à la parole de Dieu. Les enfants de l'obéissance et ceux de la désobéissance n'ont rien en commun. Alors, comment l'épouse du Christ peut-elle s'associer à une dénomination alors que l'une est désobéissante et l'autre obéissante? Comment, alors que l'une est la parole et l'autre une parole pervertie? Comment une prostituée et une femme pure peuvent-elles marcher ensemble d'un commun accord? Elles ne le peuvent pas. Elles n'ont absolument aucune communion l'une avec l'autre. Sortez du milieu d'elles. C'est du diable, c'est la marque de la bête. Elle se dirige tout droit là-dedans maintenant, toutes les dénominations, peu importe de qui c'est la dénomination. Dieu est en train de choisir, non pas une dénomination, mais un peuple pour qu'il porte son nom. Une dénomination ne recevra pas ces vérités. Ce qu'il faudra, c'est une personne, un individu qui peut voir Dieu, regarder sa parole et la croire, et ne faire partie d'aucune organisation, mais vivre pour Dieu et non pour son organisation, la sagesse intellectuelle qu'un certain évêque ou autre lui aura enseignée. C'est vrai. Les enfants de la désobéissance et les enfants de l'obéissance n'ont rien en commun. L'un est du jour de la lumière, l'autre de la nuit et des ténèbres, de l'âge mauvais, de cet âge mauvais de ténèbres, de boîtes de nuit, de soirées dansantes, mais où on est quand même membre d'église. Leur Dieu est d'accord, ça ne les culpabilise pas, rien ne les dérange. Moi, me couper les cheveux, ça ne me culpabilise pas, qu'une femme disait. Ça ne me donne pas mauvaise conscience. Elle n'a pas plus de conscience qu'un serpent n'a de hanches. C'est vrai. Certainement pas. Elle ne sait pas ce qu'est une conscience. Elle est tellement endurcie qu'elle ne sait même plus ce que c'est. C'est vrai. Ils piétinent la parole de Dieu. Ils disent, allons donc, ce n'est qu'une vieille baderne. N'allez pas là-bas. De toute façon, eux, ce n'est que du bruit et de l'excitation. Rien de plus. Ils ne connaissent pas plus Dieu qu'un hottentot ne peut connaître une nuit égyptienne. C'est vrai. C'est vrai. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui vont de maison en maison et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné. Oh, ma chère, tu devrais faire ceci. Oh, ma chère, moi, je trouve que cette vieille baderne de prédicateur que tu as là-bas, si seulement tu serais mignonne en kini, ou le nom que vous donnez à ça. Si tu faisais tout ceci, cela est autre chose. Allons, une petite cigarette ne fera de mal à personne. Moi, je suis membre de l'Église et, tu le sais, notre dénomination est respectée autant que celle de n'importe qui. N'allez pas croire cette espèce de menteuse toute peinturlurée. Elle vous ment. C'est vrai. Oui, monsieur. Leur Dieu est d'accord. Oh, il trouve ça formidable. Et il l'aime d'autant plus à cause de ça. Oh, ils vont argumenter avec vous. Ils vont se lever d'un bond et se disputer avec vous à ce sujet. Mais c'est sûr, Satan s'est campé là, en face de Jésus-Christ, la parole, et il a essayé de dire, il est écrit. Et lui, voilà, il était la parole de Dieu confirmée. Il a dit, arrière de moi, Satan. Vous n'avez qu'à marcher comme ça, faire la même chose. C'est comme ce qu'un homme m'a dit une fois. Il a dit, bon, si vous croyez que le baptême du Saint-Esprit, c'est vrai, et si vous croyez l'avoir, il a dit, frappez-moi donc d'aveuglement. Et c'était un prédicateur. Il a dit, frappez-moi d'aveuglement. Il a dit, Paul a bien frappé un homme d'aveuglement un jour. J'ai dit, monsieur, comment puis-je vous frapper d'aveuglement alors que vous êtes déjà aveugle? Comment puis-je vous tuer alors que vous êtes déjà mort? Oui. Il a dit, moi, mais j'ai 10/10 à chaque œil. J'ai dit, physiquement, mais vous êtes quand même aveugle. C'est impossible. La Bible n'interprète pas les choses. Nous parlons quand la Bible parle, et nous nous taisons quand elle se tait. J'ai dit, très bien, quand Élie était à Dothan, vous voyez, toute l'armée des Syriens est venue là et les a cernés. Et le serviteur a couru vers lui, et il a dit, oh, mon père! Il a dit, mon père! Il a dit, les Syriens nous ont encerclés. Élie s'est frotté les yeux, il s'est réveillé et a dit, « Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Il a dit, « Je ne vois personne. » Il a dit, « Oh Dieu, ouvre ses yeux. » Donc, il était aveugle et il a regardé autour de lui, vers ce vieux prophète et vers les montagnes. Elles étaient pleines d'anges, de chars de feu et de chevaux de feu. Il s'est avancé là et la Bible dit, « Il les frappa d'aveuglement. » Aveugle à quoi? À lui. Il s'est avancé et a dit, « Cherchez-vous Élie ? » ?»« Oui, nous le cherchons. » Il a dit, « Venez, je vous montrerai où il se trouve. » C'est Élie qui les conduisait vers Élie. Aveugle ! J'ai dit, « Vous savez ce que je vais vous dire ? Exactement ce que mon Seigneur a dit à votre père, arrière de moi. » Oui, oui. Remarquez, les enfants de l'obéissance et ceux de la désobéissance n'ont rien en commun. Ceux de la désobéissance adorent leur Dieu. Oh, ils disent, nous croyons la Bible. Oui, c'est un arbre mixte. Vous voyez, ils y ajoutent le monde et la connaissance. L'arbre de Satan, mixte. Vous voyez, elle a pris de l'arbre de Satan, celui du bien et du mal. Oh, nous croyons la parole, bien sûr, mais pas toute la parole. Ève aussi, elle croyait la parole, mais elle a laissé Satan, avec son arbre, pervertir cela un peu. Voilà, c'est ça. Quiconque ajoutera une seule parole ou en retranchera une seule parole, il est encore le même hier, aujourd'hui, éternellement. Remarquez, très bien, cet âge mauvais est un âge de ténèbres. Et pourtant, on est membre d'Église. Leur Dieu, il l'aime à cause de ça, parce qu'il les laisse faire. Rien ne les culpabilise, rien ne les dérange, pourvu qu'ils soient membres d'Église. Balaam a enseigné la même chose à l'Église. Unissons-nous, nous sommes tous pareils. Ça a été la dernière ruse. Dieu ne leur a jamais pardonné d'avoir cru un mensonge pareil. Souvenez-vous, c'était un péché impardonnable. Trois fois dans la Bible, pour toute personne, d'ajouter une seule parole d'interprétation personnelle à la parole de Dieu, après que celle-ci avait été confirmée comme étant la vérité, dans le jardin d'Éden. C'est vrai. Dans le jardin d'Éden, une seule parole ajoutée a produit la mort. Quand Balaam a ajouté cette parole en disant, « Nous sommes tous pareils », Dieu n'a jamais pardonné ça à Israël. Ils ont tous péri dans le désert, excepté les trois que Dieu a fait sortir. Jésus a dit, « Ils sont tous morts », c'est-à-dire éternellement séparés. Pour eux, c'est fini. Ça n'a jamais été pardonné. C'est un péché impardonnable. Ça ne leur a jamais été pardonné. Oh là là, fuyez ça, enfants des lumières du soir. Voyez-vous maintenant qui est le conducteur de cet âge moderne, religieux, mauvais? C'est le diable qui prend cet arbre du bien et du mal et qui le place là. Remarquez, qui amène sa belle épouse Église au conseil œcuménique pour un mariage. Ça, c'est bien dit. Sa belle Église scientifique, avec tous les diplômes qu'on peut obtenir, les doctorats de l'Église du Christ, les doctorats des baptistes, des presbytériens, des pentecôtistes et de tous les autres. Ils les amènent tous, avec leurs parures à franfreluche et leurs grosses églises, tous au conseil œcuménique. Nous sommes un. Ça ne leur sera jamais pardonné. Une dénomination de porter la marque d'une dénomination, c'est la marque de la baie. Nous avons déjà examiné ça à fond ici, de faire ça. Fuyez ça, mes enfants, fuyez ça, voyez. Une grande et belle église qui s'en va au mariage œcuménique en portant sa marque. Des shorts, bien sûr, des vêtements mondains, sexy, du maquillage, vraiment de très bons disciples du diable pour attraper les fils de Dieu. Amener un bon garçon, bien né, épouser une espèce de dépravé comme ça. C'est vrai. Quel? Vous dites, se couper les cheveux, quel rapport? Frère, arrêtons-nous ici un instant. Je sens qu'il y a quelqu'un qui n'a vraiment pas apprécié ça. C'est peut-être quelqu'un qui nous écoute quelque part par le système de retransmission. Écoutez, les cheveux pour la femme, c'est un vœu de Naziréa. Les cheveux pour Samson, c'était un vœu de Naziréa. Et quand une femme se coupe les cheveux, elle renie carrément son vœu de Naziréa, qui indique qu'elle est une épouse pour Christ. En effet, là, par cette seule chose, elle gâche tout le tableau. C'est exact. Un Naziréen, c'est quelqu'un qui est consacré dans un but. Pas vrai? Samson était consacré pour un âge et pour un but. C'est pourquoi il avait de longs cheveux. La femme, qui est une enfant de Dieu, elle laisse pousser ses cheveux pour montrer qu'elle est consacrée à chaque parole de Dieu. Si elle les coupe, elle aura beau danser, chanter, faire partie de la chorale, parler en langue, courir de long en large ou s'occuper de toutes sortes d'organisations humanitaires, elle est morte. Ça, c'est l'ainsi dit le Seigneur, la parole de Dieu. 1 Corinthiens 14. Oui. Elle a renié son vœu de Naziréa et elle s'est livrée entièrement au Dieu de cet âge moderne. C'est ce qu'elle fait. Alors, honte à vous, madame ou femme. Ce sont vraiment des attrape-fils de Dieu. Comme ce qui était arrivé, comme Jésus l'a dit, ce qui arriva du temps de Noé, ces femmes étaient belles, et les fils de Dieu se sont mis à en épouser parmi elles. Arrivera de même quand le Fils de l'homme reviendra. Et leur Dieu trouve ça formidable, beau, scientifique, la connaissance, la mode de Hollywood, conçue dans sa propre boutique, bien sûr, avec tous ces trucs à la gomme et tout, vous savez. Et elle, son Église, aime vraiment ça. Oh là là, sachez que je suis méthodiste, je suis presbytérienne. Notre pasteur a assez de bon sens pour ne pas dire une chose pareille. Alors, il n'a pas assez de bon sens pour dire les choses que Dieu dit. Voyez, elle, l'Église, adore vraiment ça. Elle aime ça, c'est exactement ce qu'elle voulait. Elle ne va s'associer à rien, frère, ni adhérer à rien qui la ferait agir différemment de ces Jézabel modernes, parce que c'est ça la nature qui est en elle. Comment pouvez-vous être d'une nature qui, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à sa taille? Si vous êtes né pour mesurer 1m50, vous ne mesurerez pas 1m80. Oh oui, comme la machine allongée de Booth Klibben. Alors écoutez, vous les hommes, bande de Ricky, si vous êtes nés pour être un homme, alors agissez comme un homme. Ces franges qui vous tombent sur le visage, frisées comme pour faire du charme. Oh, race pervertie de serpents, mais qu'est-ce que vous avez donc? Mon Dieu jugera un jour cette nation par le feu. Il l'enverra au fond de l'océan. L'heure de son jugement est proche. Le monde entier sera détruit. Perversion religieuse, perversion humaine. Les hommes ne savent même pas à quel sexe ils appartiennent. Les femmes non plus. Elle se tient là, vêtue d'une salopette d'homme ou d'une espèce de petit short, des vêtements qui, tous ses mouvements et toutes les formes de son corps. Et elle se dit chrétienne? Elle n'est même pas une dame, encore moins une chrétienne. Elle est une vulgaire prostituée, utilisée par Satan, inspirée par Satan, pour envoyer les fils de Dieu en enfer, pour accomplir la parole annoncée par Jésus-Christ. Je ne voulais pas dire ça, mais il l'a dit quand même. Voyez-vous d'où vient cet esprit religieux? De l'arbre mixte. Vous direz, quel mal y a-t-il à ça? Les pantalons, ou le nom qu'il donne à ça, les pantalons corsaires, ou peu importe ce que c'est. La Bible dit que toute femme qui porte un vêtement d'homme est en abomination devant Dieu. C'est ainsi dit la Bible. Et une femme qui se coupe les cheveux déshonore son chef. Et ce n'est même pas, c'est un péché pour une femme de prier les cheveux courts. La Bible dit de prier en public la tête non voilée. Et ça, oh, vous dites, je porte un chapeau. Hypocrite que vous êtes, enseignez ce genre de choses à ces femmes. Alors que la Bible dit, sa chevelure lui était donnée comme voile, pas un chapeau fabriqué par l'homme. Voilà ce que la Bible dit. Je n'en suis pas responsable. Je suis seulement responsable de dire la vérité. Ne soyez pas malhonnête, comme la Bible dit, en altérant la parole de Dieu pour correspondre ou pour répondre à la demande d'une bande de riquetas. J'ai ici le mot « mauvais ». J'écris « Elvis » au lieu de « mauvais ». C'est presque du pareil au même. Le mot « Elvis » signifie un chat. Et le mot « Ricky » signifie un rat. Quand vous dites « petit Ricky », vous voulez dire « petit rat ». Le nom que vous lui donnez, c'est ce qu'il est. Si votre enfant s'appelle comme ça, changez vite son nom, pour l'amour de l'Évangile. N'appelez pas un enfant, on n'a jamais entendu des noms pareils dans la Bible, ni dans aucun autre âge. C'est l'âge, le nom pour cet âge-ci. S'il n'y a jamais eu des rats et des chats pervertis, c'est bien là. Tous ces disques jockeys à $1 million, et ces jeunes qui circulent, ils n'arrivent même pas à aller à l'école sans avoir un de ces machins enfoncé dans l'oreille et un petit transistor dans la poche qui fait boum, badaboum. Oh, des gens sont venus à la maison, et nous, ces gars-là essayaient de repeindre ma maison. Nous avons dit, sortez-moi ça d'ici. Si vous ne pouvez pas travailler sans ça, alors arrêtez le travail. Ça m'énerve tellement que je n'arrive même pas à rester ici. Nous avons consacré ce lieu à Dieu. Ce boogie-woogie ridicule des derniers jours, nous n'en voulons pas par ici. J'ai dit, éteignez-moi ça, sinon arrêtez le travail. Remarquez, pourtant ils sont religieux. Oh, bien sûr, ils vont même à l'église. Ils sont là, dans le vestibule, à écouter du boogie-woogie. Remarquez aussi que l'épouse-parole de Christ, elle aussi, se dirige vers son aboutissement. De même que nous voyons vers quoi l'Antichrist se dirige. Il a commencé là-bas et maintenant il progresse vers sa tête. Un conseil œcuménique va produire une tête ecclésiastique. Et la petite église qui a fait son chemin, elle aussi, tout au long de l'âge, l'épouse-parole de Christ, elle progresse vers sa tête parce qu'elle va être unie de nouveau à son compagnon. Toujours, tout comme l'Église et tout le reste, elle doit s'unir. Le blé, tout le reste, revient tout droit à sa tête, là d'où il est parti, comme Cain et Abel. L'épouse-parole se dirige vers son aboutissement dans la personne de la parole de Dieu manifestée en cet âge mauvais où nous vivons. Voyez-vous vers quoi ça se dirige? Bientôt, Satan va se servir de son épouse intellectuelle pour élever ce grand personnage, c'est-à-dire l'Antichrist, la hiérarchie, et le placer sur un trône. Et la terre entière sera dans l'admiration derrière lui. Alors Christ viendra, et les deux ne peuvent pas exister en même temps. Son royaume sera ôté. Lui, il sera détruit. Et Christ, la parole de Dieu, la femme, en fait, est une partie du corps de l'homme. Ils ne sont pas deux, ils sont un. Et l'épouse, l'Église, la parole, un peuple appelé à sortir d'ici et de là, à cause de son nom, s'unira dans le corps de Jésus-Christ. Et le royaume de l'Antichrist sera ôté et détruit. Christ montera sur le trône. Il s'assiera sur le trône de son père David. Et il régnera sur la terre pendant 1000 ans. Puis il présentera à Dieu l'Église sans tache ni défaut. Oui. Maintenant, remarquez ses longs cheveux, son vœu de Naziréa vis-à-vis de la parole. Je vais dépeindre l'épouse de Christ maintenant. Nous avons dépeint celle de l'Antichrist, où elle en est, religieuse et tout, la science. Maintenant, l'humble petite épouse de Christ, qui qu'elle soit, Elles croient tout simplement la parole. Ce sont des individus. J'espère et j'ai confiance que beaucoup d'entre eux sont présents, que beaucoup sont à l'écoute. J'espère que moi-même et que chacun de vous, que tous nous faisons partie de cette épouse. J'espère que beaucoup, et effectivement, tous ceux qui ont été destinés en feront partie, parce que c'est leur nature. Ils voient, la parole ne peut reconnaître que la parole. Elle ne peut pas reconnaître une dénomination ou une perversion. Elle sait à quoi s'en tenir. Elle est la parole. Voyez ? Elle ne peut rien reconnaître. Du blé ne peut être rien d'autre que du blé. Au départ, c'était du blé. À la fin, ce sera du blé. Et une mauvaise herbe ne pourra jamais être du blé, bien qu'elle soit arrosée par la même onction. Voyez ? Mais ce n'est pas du blé. Comme je l'ai dit l'autre jour à propos de l'arbre qui portait des branches de différentes espèces. Ses longs cheveux, son vœu de Naziréa, indiquent qu'elle est liée à Dieu par un vœu. Elle est enveloppée de la magnifique robe de sa parole promise pour l'âge dans lequel elle vit, alors qu'il confirme lui-même ce qu'elle est par Hébreux 13:8. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement. En effet, elle est une partie de l'époux parole, fidèle à lui en tout point. Maintenant, regardez, si une femme va quelque part, qu'elle est mariée avec un homme, et qu'elle va quelque part et a des rapports avec un autre homme, qu'elle a une liaison avec lui, et puis qu'elle revient vers son mari, il devrait la jeter dehors. Pas vrai? Elle doit lui être fidèle, parce qu'elle est liée à lui par un vœu. Et l'épouse de Christ est liée à Christ par un vœu, et il est la parole. Même pas faire un clin d'œil au sexe opposé. Une femme ne devrait même pas faire un clin d'œil à un autre homme. Elle ne devrait lui faire aucun signe, ni montrer aucune émotion à son égard, parce qu'elle est absolument l'épouse d'un seul époux. Nous ne voulons aucun de vos arbres mixtes, aucune de vos dénominations. Soyez fidèles à Christ, la parole. Il confirmera qu'elle est vraie. Non, monsieur, ne pas montrer la moindre émotion visant à avoir des rapports avec lui. Ne pas se rallier à son parti, ni rien d'autre. Ne pas le laisser vous prendre dans ses bras ou sous sa garde, ni vous parler pour vous amener à ceci ou à cela. N'écoutez qu'une seule voix. Mes brebis connaissent ma voix. Un étranger, elle ne... Sa voix, qu'est-ce que c'est? La voix de tout homme, c'est sa parole. Et c'est ceci, la Bible. Pas un seul mot ne doit y être ajouté, ni en être retranché. Tenez-vous-en strictement à cette voie. Elles ne suivront pas un étranger, une dénomination. En effet, elle est une partie de l'époux, fidèle à lui en tout point. Elle attend le mariage, l'union, non pas au conseil œcuménique, mais dans le ciel, au souper des noces. Il lui a été donné... Ceci, c'est pour notre Église à nous. Il lui a été donné et il lui a été révélé les mystères des sept sceaux de la Bible. Voyez. Elle voit la folie du séducteur, tellement proche de la vérité que ça séduirait presque les élus. Elle voit ce qu'il en est. Elle. Voyez-vous les deux esprits opposés qui sont à l'œuvre dans cet âge mauvais? Pouvez-vous voir ça? Chacun d'eux très religieux, Cain et Abel, de nouveau des esprits qui ont progressé vers leur tête, toujours pareils à ce qu'ils étaient au commencement. L'un qui adore par la beauté, par la connaissance, par l'instruction, par la science et par la morale. Et l'autre par la foi, la révélation de la parole de Dieu. Ils sont tous les deux ici même, dans ce bâtiment ce matin. C'est vrai, la révélation ou la foi dans sa parole ne prétend pas avoir la connaissance, le vrai, le véritable chrétien. Ils disent, est-ce que vous avez un doctorat? Il est sans prétention. Je crois sa parole. Voyez? Il est sans prétention, il ne prétend pas être instruit, il n'appartient à aucune dénomination, à aucun parti, à aucune secte, il appartient à Christ, il est sa femme, et non la femme d'une église. Elle, c'est une prostituée. La Bible dit qu'elle était une prostituée et la mère des impudiques, et elles se rassemblent toutes pour former une seule et même prostituée. Ce genre de femme-là est une femme qui est infidèle à son mari. Elle prétend que Christ est son mari, alors qu'elle appartient à une dénomination. Que d'absurdité! Nous appartenons à Christ. Mais, dans l'obéissance, cette petite femme de foi, qui vit par la foi, l'épouse, la personne, ici, là, ici, quelque part, ailleurs, dans une autre église, dans une autre dénomination, peu importe, dans quelque, croit la parole de Dieu. Elle est obéissante. Elle attend avec amour que la promesse de l'âge soit confirmée. Elle attend cela. Elle fait partie de cette parole. Elle attend que sa vie manifeste cette parole. Frère, vous le voyez, n'est-ce pas? J'espère que ça n'a pas passé au-dessus de vous. Le corps attend, c'est-à-dire la parole, attend que la vie, c'est-à-dire l'esprit, vienne la confirmer ou lui faire prendre vie. C'est ça qu'elle attend. Aucune autre vie ne peut agir en elle. Il n'y a aucun autre moyen par lequel elle puisse prendre vie. Pourtant, elle perçoit que c'est là. Elle sait que ça va arriver. Et puis, voilà, ça arrive. Et là, elle se réveille. Dieu a dit qu'il y ait. Et elle est apparue. Tout comme la première était apparue. Les enfants de la désobéissance. Ce qui veut dire obéissance. Désobéissance, ça veut dire rébellion. J'ai cherché ça dans le dictionnaire pour en être sûr. La rébellion, se rebeller contre quoi? La parole de Dieu révélée. Comme Cain s'est rebellé contre la révélation d'Abel, qui avait été révélée, dont Dieu avait confirmé qu'elle était juste. Et Cain s'est rebellé contre ça, et il a tué son frère. Les pharisiens, qui avaient leur propre connaissance dénominationnelle de ce qu'était la parole de Dieu, des hommes sélectionnés, triés sur le volet, ils se sont rebellés contre la parole de Dieu confirmée, manifestée pour ce jour-là, Jésus-Christ, et ils l'ont tué. Pas vrai? Voilà ce que sont les enfants de la désobéissance, une rébellion contre la parole de Dieu. Maintenant, voyez-vous où ils se trouvent? Oh, les jours des miracles sont passés. Jésus-Christ n'est plus le même. Le baptême du Saint-Esprit, ça n'existe pas. Toutes ces histoires, ce sont des absurdités. Vous voyez, la rébellion. Ils n'ont pas besoin de dire deux choses. Ils n'ont qu'à en dire une. C'est tout. C'est de la rébellion déjà là. Ils ne peuvent pas dire que vous n'avez pas Dieu, que vous n'avez pas d'oreille. Il faut prendre le corps entier, la parole entière. Vous voyez, l'appel du Saint-Esprit. Sortez du milieu d'elle. Ne participez pas à son dogme dénominationnel. Lui qui tourne en dérision et qui méprise la parole de Dieu de ce jour-ci. Car on ne se moque pas de Dieu. Souvenez-vous-en, elle ne perd rien pour attendre. Ne vous en faites pas. Elle ne perd rien pour attendre. La Bible, dans Éphésiens 4.30, si vous voulez le noter, Éphésiens 4.30 dit... On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ils ne peuvent pas se moquer, ridiculiser, dire ces choses et s'en tirer comme ça. Comme du pain à la surface des eaux, ça reviendra. Elle est l'épouse du diable, enveloppée de la connaissance religieuse, remplie d'amour pour le péché, qu'il inculque au présent âge mauvais, afin de vous séduire. Oh là là, toute une clique ou une dénomination d'esprits séducteurs, grâce à la connaissance scientifique et à une civilisation moderne. Elle prétend, encore quelques minutes, et nous allons terminer. Je vais devoir m'arrêter, parce que je n'arriverai pas à tout prendre. Vous voyez? Elle prétend qu'elle construit un monde formidable pour que vous puissiez y vivre. Dans sa civilisation, elle prétend avoir construit de belles églises, des instituts, des écoles, des hôpitaux, des bibliothèques, apporter à l'homme une aide passagère, tout ça, sans la parole de Dieu. C'est ce qu'elle a fait. Elle a démontré qu'elle pouvait le faire. Et les gens sont tombés dans le panneau. Oui, monsieur. Des écoles, des dénominations, de la culture, des gens mieux habillés, des gens mieux nourris. Je préférerais faire la queue pour avoir du pain, être en règle avec Dieu, plutôt que de manger du poulet frit 3 fois par jour et devoir appartenir à une prostituée comme ça. Souvenez-vous, l'heure où la marque viendra est proche. Vous serez soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Ça viendra comme un voleur dans la nuit. Ça vous surprendra là, à l'intérieur, et vous serez pris. À ce moment-là, il n'y aura plus moyen d'en sortir. Vous l'aurez déjà reçu. Sortez ! Un ange est descendu du ciel. Son visage était resplendissant. Et il a crié aux gens. Ça a secoué la terre. Sortez de Babylone, car elle est tombée. N'ayez point de part à ces fléaux, mon peuple. Sortez du milieu d'elle. Sortez ! Ne venons-nous pas de le lire dans la parole il y a quelques instants ? Un ange, c'est un messager, vous voyez, qui descend. Remarquez, le Saint-Esprit, sortez du milieu d'elle, afin que vous n'ayez point de part. Maintenant, elle a construit toutes ces choses. Oui, elle a construit de grandes églises. Oui, elle a construit des instituts, des écoles. Par l'instruction, elle a amené les gens à former une soi-disant meilleure civilisation. On les a instruits selon une civilisation moderne qui les a entraînés dans la fosse de la mort. Au moyen de la connaissance, en les éloignant de Dieu et de sa parole. Ne voyez-vous pas toute cette machination? Voyez-vous ça, Église? Vous qui êtes à l'écoute, là-bas, si vous voyez ça, du milieu de vos assemblées, là-bas, dites « Amen », comme ça les autres sauront à quoi s'en tenir en ce qui vous concerne. Voyez? C'est ce qu'elle a fait. C'est un Dieu de cette terre. Et elle a construit des instituts. Elle a construit des universités, elle a construit des hôpitaux, elle a construit des bibliothèques, elle a construit toutes ces choses pour apporter à l'homme une aide passagère, juste assez pour les séduire, afin qu'ils s'écartent de la parole. Et vers quoi les a-t-elle conduits? Tout le monde ecclésiastique est plongé dans la mort, car Dieu a dit qu'il brûlerait la prostituée et ses enfants dans un feu qui ne s'éteint pas. Sortez de là, les amis. Surtout, ne soyez pas pris là-dedans. Éloignez-vous de cette chose-là, aussi vite que possible. C'est par sa connaissance scientifique qu'il a pu accomplir ceci. Or, remarquez, sans la parole de Dieu, Dieu n'a jamais décrété que nous devions aller ouvrir des écoles. Jamais. Il ne nous a jamais dit de construire des hôpitaux. C'est bien de les avoir. Il ne nous a jamais dit de construire des bibliothèques. Non, monsieur, jamais. Il a dit « prêcher l'Évangile ». Et l'Évangile, c'est de manifester, de démontrer la puissance du Saint-Esprit. Paul a dit « l'Évangile n'est pas venu jusqu'à nous en parole seulement, mais par la manifestation et les démonstrations du Saint-Esprit ». Paul a dit « Je ne suis jamais venu à vous avec les grandes paroles de sagesse d'un docteur quelconque, mais je suis venu à vous avec la puissance et la démonstration du Saint-Esprit, afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse ni sur la connaissance des hommes de ce monde, mais sur la puissance de la résurrection de Jésus-Christ, parce qu'il est vivant, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que Dieu nous aide à croire la même chose. » Et puisse Dieu confirmer la même chose, comme il l'a fait jusqu'à présent. Il vous empêche de voir la révélation et la foi véritable, la parole de Dieu révélée et confirmée aujourd'hui, par ses écoles, ses bibliothèques, sa littérature, ses hôpitaux, et ainsi de suite. Voyez, il vous en empêche. Il donne maintenant son interprétation, comme il avait fait pour Pharaon. Il cherche à vous empêcher de voir la signification de la parole confirmée, en cet âge qu'il avait promis, la lumière du soir, confirmée et prouvée. Il cherche, par sa connaissance, par des écoles, par des gens mieux instruits, par une morale, et ainsi de suite, à vous empêcher de voir cela. Il est prêt à tout pour vous empêcher de regarder cela et de voir que c'est Jésus-Christ. Comment savez-vous que c'est Jésus-Christ? Il est la parole, et il est la parole de cet âge-ci. Et dans cet âge-ci, il était annoncé que ceci se produirait, dans cet âge-ci. Et voilà, c'est ce qui est en train d'arriver. Voyez? Voyez? Il fait de son mieux pour vous empêcher de voir cela. Il va y coller tous les vilains noms qu'il peut trouver. Voyez? Il va appeler cela des exaltés et tout le reste. Il a appelé Jésus Belzébul, et s'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi ses disciples? Voyez? Vous voyez? Il cherche à vous empêcher de voir la vraie signification de la parole. Parce que, vous voyez, c'est lui qui l'interprète. Il dit que ça veut dire ceci. Dieu a dit, « J'ai promis que dans les derniers jours, je vous enverrai Malachie 4. » Ça n'a pas besoin d'être interprété. Il l'a fait. Il a dit, « Et comme du temps de Lot, le monde sera dans un état comme celui de Sodome. Et c'est en ce temps-là que je révélerai le Fils de l'homme. Alors, parfaitement. Nous en avons toutes sortes d'imitations et tout le reste, mais nous avons aussi le vrai. Voyez, il a dit qu'il le ferait. Il a dit que l'Antichrist paraîtrait et qu'il séduirait presque les élus si c'était possible. Mais il a dit, laissez-les faire. On découvrira leur folie. Pourquoi? Elle est démontrée par le test de la parole. Voyez, quand il a été question de la parole, que ça se soit passé comme ceci, comme cela. Oh, je ne crois pas à la semence du serpent. Je ne crois pas à ceci, cela et autre chose. Ça ne leur a jamais été révélé. Vous voyez? Non, jamais. Oh, frère, regardez un peu où nous allons devoir terminer, parce qu'il est midi. Remarquez, il cherche à vous empêcher de voir la signification de la parole de cet âge, la lumière du soir interprétée. Qu'est-ce que ça signifie? C'est que le temps de l'Exode est proche. Dieu vient la chercher, aussi sûr que deux et deux font quatre. Voyez? Maintenant, je veux vous poser une question, quoique il est maintenant midi cinq. Nous continuerons ce soir. Voyez-vous le Dieu de cet âge? Croyez-vous ça? Vous voyez la façon dont ça se passe? Une église, l'intellectualisme, la science, le monde entier en fait partie. Vous voyez? Des dénominations. Si vous dites, je suis chrétien, vous faites partie de quelle dénomination? Eh bien, si je faisais partie d'une dénomination, je ne crois pas que je serais un chrétien. C'est une grosse déclaration, mais c'est vrai. Je viens de le dire, la connaissance et la science et le christianisme n'ont absolument aucune communion l'un avec l'autre. L'un est du diable et l'autre est de Dieu. Tout ce qui nie la parole de Dieu, tenez-vous éloigné de ça. Voyez? Non, monsieur. La Bible lance un appel aux chrétiens en ces derniers jours pour qu'ils sortent de cette prostituée, de cet arbre du bien et du mal. Certes, il y a du bien en elle. Quelqu'un peut-il dire du mal d'un hôpital? Non, monsieur. D'une bibliothèque? Non, monsieur. De l'instruction? Non, monsieur. Mais vous voyez, il leur donne ces choses sans la parole. Vous voyez comme c'est trompeur? Il leur donne une église où aller, un culte à rendre, un Dieu assis sur un trône. La Bible l'avait annoncé d'avance. Or, vous faites partie de l'un de ces corps. Il n'y en a que deux sur la terre maintenant. Il en a toujours été ainsi. Et il en sera ainsi jusqu'à ce que Jésus vienne. Et alors, l'un d'eux sera détruit. Or, vous faites partie de l'un des corps. L'un d'eux, vous y avez adhéré. L'autre, vous y naissez. Voyez? L'un d'eux, vous en faites partie parce que vous y entrez par une naissance. Vous ne pouvez pas faire autrement que d'en faire partie. Pourrais-je nier que j'ai un bras? Pas plus que je peux nier une seule parole de Dieu. Si je suis une partie de Dieu, je suis une partie de William Branham. J'ai plusieurs parties, et chaque partie est une partie de moi. Et chaque parole de Dieu doit cadrer avec mon esprit, doit cadrer avec mon âme, doit cadrer avec ma manière de vivre, elle doit cadrer avec mes idées. Si mes idées sont contraires à elles, alors l'Esprit de Dieu n'habite pas en moi. C'est vrai. Je ne peux pas en nier une seule parole. Vous faites partie de l'un des corps. Forcément, ça ne peut pas faire autrement. Soit le corps de Dieu qui est produit par la parole, soit le corps de Satan produit par l'Église. Et le monde entier devra faire partie d'une église, quelle qu'elle soit. Il adore un Dieu, quel qu'il soit. Vous devez adorer soit le Dieu de la connaissance. Vous vous appuyez sur ce que vous entendez par la connaissance. Vous vous appuyez sur ceci, cela ou autre chose. Ou bien, vous vous appuyez sur la parole de Dieu par la foi en vous attendant à ce qu'il la confirme et montre qu'elle est vraie. La vraie église de Dieu attend la venue du millénium, jour béni, où notre Seigneur viendra chercher son épouse, qui l'attend. Oh, mon cœur est rempli d'allégresse, pendant que je travaille, veille et prie, car notre Seigneur revient bientôt sur terre. Oh, notre Seigneur revient bientôt sur terre. Oh, Satan sera lié pour 1000 ans. Nous ne serons plus tentés quand Jésus sera revenu sur la terre. Oh, vous, peuple des États-Unis, où ce message est transmis en ce moment, fuyez à toute vitesse cet âge de connaissance, cet âge de science où nous vivons. Fuyez vers la parole de Dieu. Ni vous, ni moi, ni personne ne la connaît. Personne ne peut la prouver. Dieu la prouve lui-même. Personne n'a le droit de l'interpréter. Ni moi, ni aucun autre homme n'en a le droit. Dieu fait l'interprétation par lui-même. Il a fait la promesse. Il a dit qu'il ferait ceci dans les derniers jours. est que, dans les derniers jours, le Dieu de cet âge mauvais allait aveugler les yeux des gens par sa connaissance intellectuelle présentée sur un arbre mixte, composé de bien et de mal, dont il continue à donner aux gens. Et voici, cette chose est en train d'aboutir. Cette dénomination qui vient de loin en arrière, de l'âge des ténèbres et d'avant l'âge des ténèbres, tout ça est en train d'aboutir dans un surhomme, Satan, qui a dit « Je m'élèverai au-dessus des fils de Dieu et ils m'écouteront. » Et lui-même, comme s'il était Dieu, il s'assiera dans le temple de Dieu et les fils de Dieu tomberont dans le panneau. Tenez, ce fils de Dieu dira, « Eh bien, ma femme, pas du tout, c'est une bonne. Allez-y, continuez comme ça. » Voyez, vous dites, « Eh bien, il a dit, fils de Dieu. » Oui, monsieur. L'homme, quel qu'il soit, a été fait à l'image de Dieu pour la gloire de Dieu. Et la femme a été faite pour l'homme, un produit dérivé, et non de Dieu, c'est vrai. Quand les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, ils en prirent pour femme. Et ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Maintenant, regardez, si vous voulez savoir à quel stade en est l'Église, observez à quel stade en sont les femmes, vous voyez? Parce que l'Église, c'est elle. Observez ce qu'elle fait, vous voyez? Et en cet âge mauvais de prostitution, regardez, nulle part au monde, il n'y avait une ville plus méchante, plus mauvaise, plus dégradée, plus axée sur la prostitution que Nazareth. Et c'est là-bas que Dieu a choisi une vierge. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Et c'est dans cet âge mauvais où le Dieu de cet âge a aveuglé les yeux des gens par leurs dogmes et leurs dénominations. C'est justement dans cet âge que Dieu est en train de choisir un peuple pour qu'il porte son nom. Bien qu'ici, délaissé, méprisé, un jour le Seigneur fera entrer par la porte ceux qu'il s'est choisis. Et ça vaut tous les efforts. Alors nous chanterons, crierons et danserons. L'agneau séchera nos larmes. Nous passerons une semaine heureuse de retrouvailles à la maison. Les premiers 10 000 ans. C'est vrai. Un merveilleux peuple qui porte son nom et on les appelle son épouse. Pas vrai? Bien que délaissé et méprisé, un jour le Seigneur fera entrer par la porte dans l'Exode ceux qu'il a choisis. Et pour moi, ça vaut tous les efforts. Je deviens vieux. Mes jours commencent à se flétrir. Ma vue commence à baisser. Ma petite flamme de vie commence à s'éteindre. Je ne crains pas l'obscurité. En effet, je veux dire ceci, à l'instar de Paul, je le connais dans la puissance de sa résurrection. Peu importe où on m'enterrera, que je me noie en mer, que je brûle dans une fournaise, ou que je sois dévoré par un lion, il m'appellera par mon nom et je parlerai. Amen. Prions. S'il y a quelqu'un ici, à l'intérieur, ou à l'extérieur, d'un bout à l'autre du pays, où ce message est retransmis par téléphone, dans vos petites églises, dans vos groupes, dans les salles, où que vous soyez assis. S'il y a quelqu'un, oh, laissez-moi vous convaincre, laissez-moi vous supplier en tant que ministre de l'Évangile. Laissez-moi vous supplier, au nom de Jésus-Christ, fuyez la colère de cet âge mauvais. Ne servez pas le Dieu de cet âge mauvais. Oh, je sais que vous dites, c'est bien, ils sont gentils. Justement, un arbre mixte. On ne peut pas mélanger de la connaissance avec la parole de Dieu. Cette parole, il faut la croire par la foi, pas par la connaissance. On ne la comprend pas, on l'accepte, on déclare qu'elle est vraie, et puis on aligne sa vie sur elle. C'est tout ce qu'il vous demande de faire. S'il y a quelqu'un ici présent dans notre groupe, nous ne pouvons pas faire d'appel à l'hôtel pour vous faire venir ici, à l'avant, parce qu'il n'y a pas de place. Ou à l'extérieur, par la voie des ondes, par la retransmission téléphonique. S'il y a quelqu'un là-bas qui ne le connaît pas, ne... Oh, femme, je vous ai réprimandé ce matin. Ce n'est pas moi. Je n'ai fait que citer la parole. Les cheveux courts, de porter ces espèces de petits vêtements, de vous habiller pour être sexy. Vous ne vous rendez donc pas compte que l'esprit qui... Vous êtes peut-être pur, ma chère sœur, quant à votre corps, Mais dans votre âme, vous ne voyez donc pas ce qui s'est emparé de vous? Est-ce que Dieu ferait en sorte que sa fille ait l'air sexy pour qu'elle séduise son propre fils, que celui-ci la convoite, de sorte que tous les deux aient à répondre d'adultère? Est-ce qu'il ferait ça, ma sœur? Posez-vous la question. Non, bien loin de là. Ne mettez pas ça sur le dos de Dieu. Frère, est-ce que Dieu vous a donné un esprit de ce monde de sorte que vous ne voyez pas que c'est mal, ça? Est-ce qu'il a aveuglé vos yeux face à la morale de l'Église, à la dénomination, au credo et tout, au point que vous ne puissiez pas voir que Dieu est en train de confirmer sa parole et de l'exécuter? Est-ce que votre travail, est-ce que votre patron, est-ce que votre femme, est-ce que vos enfants, est-ce que votre église, ou quoi que ce soit, vous a séparé de la parole de Dieu, qui est l'unique source de vie? Fuyez ça, mon frère. Je vous aime d'un amour divin. Je n'ai pas plus de respect pour aucun de mes frères que pour vous, pas du tout. Si je faisais ça, je ferais exception de personne. Je ne dis pas ces choses pour vous mettre en colère. Je dis ces choses parce qu'elles sont dans la parole de Dieu. Et en tant que serviteur de Dieu, avec l'amour de Dieu dans mon cœur, je vous dis ces choses pour que vous voyiez et que vous compreniez. Si je ne vous le disais pas, peut-être que vous ne le sauriez pas. Voulez-vous fuir ces choses aujourd'hui? Maintenant, avec ceux qui sont partout dans le pays, inclinons la tête. Dieu bien-aimé, ici devant moi se trouvent des mouchoirs. Des gens sont malades. Je pose mes mains dessus afin que tu les guérisses. Et j'ai confiance, Seigneur, qu'il y aura ce soir un service glorieux, que la puissance de Dieu sera là, de grands signes et des prodiges. On nous a fait part des résultats des dernières réunions. Comme c'est extraordinaire de voir ce qui est arrivé. Je te prie, Dieu bien-aimé, de nous donner une double portion ce soir. Je fais cette prière d'un cœur sincère, Seigneur, poussé par l'amour que j'ai pour toi et pour ta parole et pour ces gens. Accorde-le, Dieu bien-aimé. Et si, là-bas dans le pays, ou même ici en ce moment, il y a des gens qui sont malades et affligés, et qui doivent partir avant ce soir, qui ne seront pas ici, ou qui ne seront pas là-bas, dans les églises ou les endroits où ils s'étaient réunis, je te prie de les guérir. Maintenant, Seigneur, mais quant à la plus grande de toutes les guérisons, si tu guéris leur corps physique, du cancer, de la tuberculose, d'une pneumonie, de quelque chose, sans doute que s'ils vivent encore longtemps, ils retomberont malades, car leur corps est encore sous l'emprise du péché, de la malédiction. Mais donne-leur de recevoir la vraie guérison divine, la guérison de l'âme qui produit une nouvelle créature, qui fait passer de la mort à la vie, et attendre ensuite, dans cette vieille tente, la rédemption du corps, après que l'âme aura été rachetée. Accorde-le, Seigneur. Puissent-ils fuir ces dénominations et ces credos. Ô Dieu, là-bas, dans ces credos et ces dénominations, j'ai rencontré de très bons frères, parmi les meilleurs. Oh Dieu, comment puis-je le dire de manière qu'ils le voient, arriver à leur faire voir la parole? Ça me préoccupe. Mais là encore, je sais que tu as dit, nul ne peut venir, si bon, si doux, si aimable qu'il soit, à moins que mon Père ne l'ait appelé. Et tous ceux que mon Père m'a donnés, ils viendront. Et Seigneur, je considère que ma seule responsabilité est de dire la vérité. Et il ne s'agit pas, comme Paul l'a dit, d'altérer la parole de Dieu en la mélangeant avec un dogme dénominationnel, un arbre mixte, composé du bien et de la connaissance, du bien et du mal, mais de la porter avec un cœur ouvert et avec le Saint-Esprit. Accorde-le, ô Dieu, sauve-les tous. Maintenant, pendant que nos têtes sont inclinées et nos yeux fermés, non pas devant moi, je ne peux pas le dire comme ceci, que ça m'est égal, que vous le fassiez ou pas, ça ne m'est pas du tout égal, je vous aime. Et j'espère que vous ne pensez pas que, parce que je suis obligé de parler sévèrement, comme Paul l'a dit, je voudrais être présent parmi vous et changer d'attitude. Ce n'est pas qu'il ne les aimait pas, il les aimait beaucoup. Pas comme Jésus qui a dû les réprimander et ensuite mourir pour eux. Vous voyez, Père, pardonne-leur, ils ne savent même pas ce qu'ils font. Quand on pense qu'il s'agit d'un être humain qui veut marcher droit, qui essaie de marcher droit, et de voir que le diable, c'est contre lui que j'en ai, lui qui a aveuglé les yeux de ces gens. Cette nation devrait être embrasée par la gloire de Dieu en voyant ce qui est arrivé au milieu d'elle en ce dernier jour. Pourquoi est-ce que ces réveils n'ont pas touché les pays anciens? Ici, c'est la côte ouest. C'est le plus à l'ouest qu'on puisse aller. Maintenant, la barrière du péché a tonné sous la terre et elle est en train de s'enfoncer. Des endroits à Los Angeles et à Hollywood s'enfoncent de tant de centimètres par heure. Il n'y a aucun moyen d'arrêter ça. Oui, nous y sommes. D'une minute à l'autre, nous entendrons l'appel. Si vous savez que, maintenant, que personne ne regarde, mais si vous savez, dans votre cœur, je vous le demande, moi je ne peux pas connaître votre cœur, à moins que Dieu le révèle, mais dans votre cœur, si vous pouvez voir que vous n'êtes pas où vous devriez être avec Dieu et sa parole, avec la foi, voudriez-vous juste lever la main vers lui, lui dire à lui, « Seigneur, aide-moi. » Oh Dieu, dans cette église qui est comble, les gens sont entassés le long des murs, à l'intérieur comme à l'extérieur. Il y a littéralement des centaines de mains, peut-être 200 mains qui se sont levées. Merci pour votre honnêteté. Cher Jésus, ne permets pas qu'un seul d'entre eux soit perdu. En tant que ton serviteur qui se place entre les vivants et les morts, je leur montre du doigt la parole de Dieu. Je ne peux pas les sauver, Seigneur, mais ils veulent être sauvés. Et Père, comme je l'ai dit bien des fois, le soleil se lève le matin, et alors qu'il monte et parcourt la terre, il est envoyé par Dieu pour faire mûrir le grain, fournir de la nourriture naturelle pour la vie naturelle. Mais, ô Dieu, tu as dit que pour ceux qui craignent son nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Que le soleil de la justice, la parole de Dieu, se lève dans le cœur des gens, et que les rayons guérissants de la foi dans cette parole guérissent tous ceux qui désobéissent à la parole, et les fassent parvenir à la plénitude des fils et des filles de Dieu. Ils t'appartiennent, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, je te remets, qu'ils soient ici ou à l'écoute ailleurs, ceux qui ont levé la main vers toi pour le salut de leur âme. Amen.
Where at this altar? Rest.
Où? À cet autel. Par la foi, je regarde là-bas vers le lieu où je m'en vais. C'est là que la parole est suspendue. C'est-à-dire crucifié avec lui. Je ne veux rien du monde. Garde-moi crucifié. Tendez le bras et prenez la main de quelqu'un. Dites que Dieu vous bénisse, chrétien. La voix du Seigneur m'appelle. Vous sentez sa présence? Vous qui êtes là-bas, reliés à nous par le téléphone, serrez-vous la main et dites que Dieu vous bénisse, chrétien. Vous savez, il y a un bassin rempli d'eau ici derrière. Dieu est en train de choisir un peuple qui porte son nom. Si vous n'avez pas été baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés, il y a un baptistère, il y a des vêtements, il y a des hommes qui sont là, prêts. Vous êtes le bienvenu. Si vous acceptez véritablement Jésus comme votre sauveur et que vous croyez que cela est bien la vérité, rappelez-vous, pas une seule personne dans la Bible, ni à n'importe quelle époque, avant que l'Église catholique s'organise, n'a jamais été baptisée autrement qu'au nom de Jésus-Christ. On ne trouve aucun endroit dans l'Écriture, ni dans l'Histoire, où qui que ce soit ait jamais été baptisé pour entrer dans l'Église du Dieu vivant au nom des titres de Père, Fils, Saint-Esprit. C'est un dogme catholique et non un enseignement biblique. Lors d'un entretien avec un prêtre, je lui ai posé une question à ce sujet. Il a dit, c'est la vérité. Mais nous sommes l'Église. Nous pouvons changer tout ce que nous voulons. Les solennités relèvent de l'Église. Dieu est dans son Église. J'ai dit, Dieu est dans sa parole. Et si l'Église est... J'ai dit, Dieu est la parole. Et si l'Église est en contradiction avec la parole, alors je ne crois pas l'Église. Je reconnais toute parole d'homme pour mensonge, que ce soit celle d'un prêtre, d'un pape ou de qui que ce soit, est la parole de Dieu pour vrai. Et Paul a amené tout homme, quelle que soit la manière dont il avait été baptisé, s'il n'avait pas été baptisé au nom de Jésus-Christ, à venir se faire rebaptiser. Et après que certains d'entre eux avaient déjà reçu le Saint-Esprit, Pierre a dit, « Peut-on refuser l'eau, puisque ceux-ci ont reçu le Saint-Esprit ?» Acte 10, 49. « Puisque ceux-ci ont reçu le Saint-Esprit comme nous, oh !» Et il leur a ordonné, « Avant de quitter ce lieu, bien que vous ayez reçu le Saint-Esprit, venez vous faire baptiser au nom de Jésus-Christ. » En effet, la clé du royaume avait été donnée à Pierre en ces mots, « Tout ce que tu liras sur la terre, je le lirai dans le ciel. » Et une clé, qu'est-ce que ça fait? Ça ouvre quelque chose, le mystère. Et quand Jésus a dit, « Allez, baptisez-les au nom du Père, Fils, Saint-Esprit », il a présenté cela pour aveugler l'incroyant. Observez, pourquoi Pierre n'a-t-il pas exécuté ça mot pour mot? Il ne pouvait pas faire autrement. Si un homme a été baptisé dans les titres de Père, Fils, Saint-Esprit, il n'a jamais été baptisé du tout. Il n'a pas de nom. Père n'est pas un nom. Fils n'est pas un nom. Et Saint-Esprit n'est pas un nom. Le Saint-Esprit, c'est ce qu'il est. Comme moi, je suis un humain. Lui, il est le Saint-Esprit. Père est un titre. Je suis un père. Fils est un titre. Je suis un fils. Humain est un titre. C'est ce que je suis. Mais mon nom est William Branham. Et le nom du Père, Fils, Saint-Esprit, c'est le nom de Jésus-Christ. Jésus a dit, « Je suis venu au nom de mon Père. » Le nom du Père, qu'est-ce que c'est? Tout fils vient au nom de son Père. Et le nom du Père, c'est Jésus-Christ. Voyez? Vous voyez ce que je veux dire? Si je vous disais d'aller là-bas au guichet, me chercher quelque chose au nom du maire de la ville. Combien savent qui est le maire de la ville? Mon bon ami Rich Vissing. Eh bien, vous n'iriez pas dire là-bas, au nom du maire de la ville. Vous diriez, au nom de Richard Vissing. Vous, les gens de Jeffersonville, vous savez qui c'est. Et c'est pour cette raison qu'il a dit, Père, Fils et Saint-Esprit. En lui habite la divinité, la plénitude de la divinité corporellement. Il a dit, baptisez-les au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Pierre, qui se tenait là, avec la révélation de qui il était, révélation sur laquelle il a bâti l'Église, il a dit, repentez-vous, chacun de vous, et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Et jamais les clés ont tourné au ciel et sur la terre. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel vous deviez être sauvés. Pourquoi baptisez-vous au nom de Jésus-Christ? Pour la rémission des péchés. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. voyez? Mais si vous ne pensez pas que la personne soit digne et apte à être baptisée, ne le faites surtout pas. Parce que quand vous le faites, eh bien, ça y est, vous voyez. Vous comprenez ce que je veux dire? La voix, ne veux-tu pas mourir avec moi pour pouvoir ensuite ressusciter avec moi? Qu'est-ce que le monde va dire? Maintenant, si vous ne l'avez pas encore fait, inclinons la tête. Dieu bien-aimé, le baptistère est prêt. Maintenant parle au cœur, Seigneur. Puisse-t-il entendre Christ, la parole qui les appelle, et puisse-t-il le suivre jusqu'au bout. Je traverserai le jardin avec lui. J'irai avec lui jusqu'au baptistère. Je prendrai son nom. Je veux être l'un de ceux qu'il appelle à porter son nom. Je croirai sa parole, je suivrai, je ne flirterai jamais avec le monde, je serai une véritable épouse fiancée, je ne laisserai de côté pas un seul iota de sa parole, en tout ce qui me sera demandé, je serai une vraie, une véritable épouse. Tout ce qu'il me demandera de faire, je le ferai. Si mon futur mari veut que je me laisse pousser les cheveux, je le ferai. S'il veut que j'enlève tout ce maquillage, je le ferai. S'il veut, s'il me dit que c'est un mauvais esprit, que c'est avec le malin que je suis en train de flirter en portant ces vêtements sexy, je le ferai, je les enlèverai. Peu m'importe ce que disent les autres, je les enlèverai. S'il veut que je sorte de ce groupe d'incroyants avec lequel je me trouve, je le ferai. Même si c'est mon gagne-pain ou quoi que ce soit, il a promis de ne jamais me délaisser ni m'abandonner. Je le ferai. Je le suivrai jusqu'au bout. S'il veut que je me fasse baptiser en son nom, je le ferai. Seigneur, tu l'as promis ici dans ta parole, que c'est ce que tu voulais. Puisse chaque personne le voir, Seigneur, et avec douceur et humilité se soumettre à cela. C'est au nom de Jésus que je fais cette prière. Amen. Vous appartenez à Dieu. Puisse Dieu prendre ces petites paroles décousues et les rendre réelles pour vous. C'est ma prière sincère. Le baptistère sera prêt. Quiconque voudrait venir, le ministre l'annoncera un peu plus tard. Quiconque s'est repenti et veut être baptisé en utilisant le nom de Jésus-Christ, vous n'avez qu'à vous avancer. Tout est prêt. Tout est prêt. Nous sommes là pour faire tout ce que nous pouvons afin de vous aider à vivre pour Dieu. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, levons-nous. Maintenant, notre petit chant, je l'aime. Je l'aime parce qu'il m'a aimé le premier. Chantons-le tous maintenant. Levons les mains pendant que nous le chantons. Maintenant, avec nos têtes et nos cœurs inclinés, fredonnons-le pour lui.
Love him.
Oh Dieu, notre Père, Sois miséricordieux envers nous, pauvres créatures, Seigneur. Fortifie-nous en vue du travail qui est devant nous. Aide-moi, ô Dieu, aide-moi. Je sens qu'il y a quelque chose juste là, tout près, Père. Aide-moi, ô Dieu, à connaître la vérité. Bénis ces gens, Dieu bien-aimé. Conduis-les, je te prie, au nom de Jésus. Maintenant, pendant que nous inclinons la tête, je vais demander au pasteur ici, frère Neville, notre précieux frère, de s'avancer ici maintenant pour dire ce qu'il a prévu de dire quant à pour ce qui est du baptême. Je crois pouvoir annoncer ça. Je pense que le baptistère est ouvert.